Dimanche 18, conversation vive de l'empereur avec le gouverneur, entière avec l'amiral. Le temps, toute la nuit et le jour, a été des plus affreux. Sur les 3 heures, l'empereur est sorti, profitant d'une éclaircie. Il est entré chez moi, nous sommes passés chez le général Gourgaud, qui était malade, et de là chez madame de Montholon, qui a suivi dans le jardin. L'empereur était d'une extrême gaieté, la conversation s'en ressentait. Il a entrepris d'amener madame de Montholon à faire sa confession générale, insistant surtout sur le point de départ. « Allons, disait-il, parlez sans crainte. Que le voisin ici ne vous gêne pas. Ne voyez en lui que le confesseur. Nous n'en saurons rien le quart d'heure d'après, etc., etc. » Et vraiment, je crois qu'il allait la persuader quand, malheureusement, le gouverneur est venu interrompre de si heureuses dispositions. Il apparut et l'empereur a gagné brusquement le fond du bois pour ne pas le recevoir. Monsieur de Montholon nous a rejoints peu d'instants après pour faire connaître à l'empereur que le gouverneur et l'amiral demandaient instamment l'honneur de lui parler. L'empereur a cru à quelques communications de leur part, il est revenu dans le jardin où il les a reçus. Nous sommes demeurés en arrière avec les officiers du gouverneur. Bientôt la conversation a été vive de la part de l'empereur, qui, se promenant entre le gouverneur et l'amiral, n'adressait guère la parole qu'à celui-ci, même en parlant de l'autre. Nous demeurions à une assez grande distance pour ne rien entendre distinctement, mais j'ai su plus tard qu'il lui a répété de nouveau, et avec plus de force et de chaleur peut-être, tout ce qu'il lui avait déjà dit dans les conversations précédentes. Sur les bonnes interprétations que l'amiral, qui jouait le rôle de médiateur, s'efforçait de donner aux intentions du gouverneur, l'empereur a dit « Les fautes de M. Law viennent de ses habitudes dans la vie. Il n'a jamais commandé que des déserteurs étrangers, des Piémontais, des Corses, des Siciliens et tout renégat traître à leur patrie, la lie, l'écume de l'Europe. S'il eût commandé des hommes, des Anglais, s'il l'était lui-même, il aurait des égards pour ceux qu'on doit honorer. » Dans un autre moment, l'empereur a dit qu'il était un courage moral aussi nécessaire que le courage du champ de bataille, que M. Law ne l'avait pas ici vis-à-vis de nous, et ne rêvant que notre évasion, plutôt que d'employer pour l'empêcher le seul moyen vrai, sage, raisonnable et froid. L'empereur lui a dit aussi que, du reste, son corps était entre les mains des méchants, mais que son âme demeurait aussi fière, aussi indépendante, qu'à la tête de 400 000 hommes ou sur le trône quand il faisait des rois. À l'article des réductions de nos dépenses et de l'argent qu'on demandait à l'empereur, il a répondu « Tous ces détails me sont trop pénibles, ils sont ignobles. Vous me mettriez sur les charbons ardents de Montezuma ou de Guatimozine que vous ne tireriez pas de moi l'or que je n'ai pas. D'ailleurs, qui vous demande quelque chose? Qui vous prie de me nourrir? Quand vous discontinueriez vos provisions, si j'ai faim, ces braves soldats que voilà, en montrant de la main le camp du 53e, prendront pitié de moi. J'irai m'asseoir à la table de leurs grenadiers et ils ne repousseront pas, j'en suis sûr, le premier, le plus vieux soldat de l'Europe. » L'empereur ayant reproché au gouverneur d'avoir gardé quelques ouvrages qui lui étaient adressés, il a répondu que c'était parce que l'adresse portait la qualification d'empereur. « Et qui vous a donné le droit, répliquait l'empereur, de me disputer ce titre ? Dans peu d'années, votre Lord Castlereagh, votre Lord Bathurst et tous les autres, vous qui me parlez, vous serez ensevelis dans la poussière de l'oubli. Ou si on connaît vos noms, ce sera par les indignités que vous aurez exercées contre moi, tandis que l'empereur Napoléon demeurera toujours sans doute le sujet, l'ornement de l'histoire et l'étoile des peuples civilisés. » Vos libelles ne peuvent rien contre moi. Vous y avez dépensé des millions. Qu'ont-ils produit? La vérité perce les nuages. Elle brille comme le soleil. Comme lui, elle est impérissable. » L'empereur convenait, dans cette conversation, avoir fort maltraité et souvent Sir Hudson Law, et il lui rendait justice d'avouer encore que si Hudson Law ne lui avait jamais précisément manqué, il s'était contenté de marmotter souvent entre ses dents des choses qu'il n'avait pas laissé entendre. Une fois, il a dit qu'il avait demandé son rappel, et l'empereur lui a répondu que c'était la parole la plus agréable qu'il pût lui faire entendre. Il a dit encore que nous flétrissions son caractère en Europe, mais que cela lui était égal, etc. Le seul manquement peut-être du gouverneur, disait l'empereur, et qui serait léger auprès de tout ce qu'il avait reçu, avait été de se retirer brusquement quand l'amiral ne s'éloignait qu'avec lenteur et avec de nombreuses salutations. L'amiral était précisément là, me disait gaiement l'empereur, le marquis de Gallo, lors de ma rupture de Pesariano, etc. Allusion à un des chapitres de la campagne d'Italie qu'il m'avait dictée. Au surplus, l'empereur disait qu'après tout, il se reprochait cette scène. « Je ne dois plus recevoir cet officier. Il fait que je m'emporte. C'est au-dessous de ma dignité. Il m'échappe vis-à-vis de lui des paroles qui eussent été impardonnables aux Tuileries. Si elles peuvent avoir une excuse ici, c'est de me trouver entre ses mains et sous son pouvoir. » Après le dîner, l'empereur a fait lire une lettre en réponse au gouverneur qui avait envoyé officiellement le traité du 2 août par lequel les souverains alliés stipulaient l'emprisonnement de Napoléon. Sir Hudson Lowe demandait, par la même occasion, à introduire les commissaires étrangers à Longwood. L'empereur avait dicté cette lettre dans la journée à M. de Montholon. Il a voulu que chacun de nous proposât des objections et donnât son avis. Elle nous a semblé un chef-d'œuvre de dignité, de force et de logique. On la trouvera plus bas, lors de son envoi ou bien encore aux pièces officielles. Lundi 19, retour sur la conversation avec le gouverneur, etc., effet des libelles sur Napoléon, traité de Fontainebleau, ouvrage du général Sarrazin. Le temps a continué d'être aussi affreux que nous l'eussions jamais eu. Depuis 3 ou 4 jours, c'était un de nos véritables ouragans d'équinoxe en Europe. L'empereur l'a bravé pour entrer sur les 10 heures chez moi. En sortant, il s'est accroché la jambe à un clou près de la porte. Son bas a été déchiré jusqu'à mi-jambe. Heureusement, la peau n'a été qu'effleurée. Il s'est vu forcé de rentrer pour changer. « Vous me devez une paire de bas, » me disait-il, pendant le temps que son valet de chambre lui en mettait une autre. « Un honnête homme ne présente point de pareil danger dans ses appartements. Vous êtes logé trop en marin. Il est vrai que ce n'est pas tout à fait votre faute. » « Je me croyais indifférent sur ce point, mais, morbleu, vous me surpassez. »« Sire, disais-je, mon mérite n'est pas grand, on ne me laisse pas de choix. Je suis vraiment un cochon dans sa fange, je dois l'avouer, mais, comme dit votre majesté, ce n'est pas tout à fait ma faute. » Nous avons gagné le jardin à la faveur d'une éclaircie. L'empereur revenait sur la conversation qu'il avait eue la veille dans ce même endroit avec le gouverneur en présence de l'amiral et se reprochait de nouveau la violence de ses expressions. « Il eût été plus digne de moi, disait-il, plus beau, plus grand, d'exprimer toutes ces choses de sang-froid. Elle n'en eût eu d'ailleurs que plus de force. » Il lui revenait surtout une qualification qu'il avait laissée échapper contre Hudson Lowe, scribe d'état-major, qui avait dû le choquer, d'autant plus qu'elle rendait une vérité, et l'on sait qu'elle offense toujours. « Je l'ai bien éprouvé moi-même à l'île d'Elbe, » continuait l'empereur. « Quand je me suis mis à parcourir les libelles les plus infâmes, il ne me faisait rien, mais rien du tout. Quand on m'apprenait, ou que je lisais, que j'avais étranglé, empoisonné, violé, que j'avais fait massacrer mes malades, que ma voiture avait roulé sur mes blessés, j'en riais de pitié. » Mais combien de fois n'ai-je pas dit alors à madame « Accourez, ma mère, voyez, le sauvage, l'homme-tigre, le dévoreur du genre humain, venez admirer le fruit de vos entrailles. » Mais sitôt qu'on approchait un peu de la vérité, il n'en était plus de même, je sentais le besoin de me défendre, j'accumulais les raisons pour me justifier, et encore n'était-ce jamais sans qu'il restât quelque trace d'une peine secrète. « Mon cher, voilà l'homme. » De là, l'empereur est revenu sur sa protestation contre le traité du 2 août qui nous avait été lu hier après-dîner. J'ai osé lui demander si, mettant en avant la reconnaissance de son titre d'empereur par les Anglais lors des négociations à Paris et à Châtillon, il n'avait pas oublié de mentionner celle qu'ils avaient dû faire au traité de Fontainebleau et qui me paraissait omise. « C'est à dessein, » a-t-il dit vivement, « je ne veux point de ce traité, je le renie. » Je suis loin de m'en vanter, j'en rougis plutôt. On l'a discuté avec moi, celui qui me l'apporta me trahissait. Cette époque appartient à mon histoire, mais à mon histoire en grand. Si j'eusse voulu traiter alors sensément, j'aurais obtenu le royaume d'Italie, la Toscane ou la Corse, etc., etc., tout ce que j'aurais voulu. Ma décision fut une faute de mon caractère, une boutade de ma part, un véritable excès de tempérament. Je pris du dégoût et du mépris pour tout ce qui m'entourait. J'en pris pour la fortune que je me plus à braver. Je jetai les yeux sur un coin de terre où je pusse être mal et profiter des fautes que l'on ferait. Je me décidai pour l'île d'Elbe. Cet acte fut celui d'une âme de rocher. Mon cher, je suis d'un caractère bien singulier, sans doute, mais on ne serait point extraordinaire si l'on était d'une trempe à part. Je suis une parcelle de rocher lancée dans l'espace. Vous me croirez peut-être difficilement, mais je ne regrette point mes grandeurs. Vous me voyez faiblement sensible à ce que j'ai perdu. Et pourquoi ne vous croirais-je pas, sire? Répondais-je. Que regretteriez-vous? La vie de l'homme n'est qu'un atome dans la durée de l'histoire. Or, chez votre majesté, l'une est déjà si pleine que vous ne devez plus guère prendre d'intérêt à l'autre. S'il en coûte ici à votre corps, votre mémoire y gagne au centuple. Si vous eussiez dû finir au sein d'une prospérité non interrompue, que de grandes et belles choses eussent passé ignorées. Votre majesté me l'a dit elle-même, et je suis demeuré frappé d'une telle vérité. Il n'est pas de jour, en effet, que ceux qui furent vos ennemis ne répètent avec nous qui sommes vos fidèles que vous êtes bien certainement plus grand ici qu'aux Tuileries. Et même sur ce roc où vous ont déporté la violence et la mauvaise foi, n'y commandez-vous pas encore? Vos geôliers, vos maîtres sont à vos pieds, votre âme soumet tout ce qui l'approche. Vous vous montrez ici ce que l'histoire dit de Saint-Louis sous les chaînes des Sarrasins, le véritable maître de ses vainqueurs. Votre irrésistible ascendant vous accompagne ici. Nous le pensons tous autour de vous, sire. Le commissaire russe le disait l'autre jour, nous l'assurons, et ceux qui vous gardent l'éprouvent. Que regretteriez-vous? Etc., etc. En rentrant, l'empereur a demandé son déjeuner sous la tente en dépit de l'ouragan et m'a gardé. L'eau ne perçait pas, nous en étions quittes pour une forte humidité, mais les ravals de pluie et de vent tourbillonnaient autour de nous et se précipitaient au loin devant nous vers le fond des vallées. Ce spectacle n'était pas sans quelque beauté. L'empereur s'est retiré vers les 2 heures. Il m'a fait revenir à quelque temps de là dans son cabinet. « Je viens de lire le général Sarrasin, disait-il en posant le livre. C'est un fou, un écervelé, il dit des bêtises. Après tout, cependant, il se laisse lire, il amuse, il coupe, tranche, juge et prononce sur les hommes et sur les choses. Il n'hésite point à donner main conseil à Wellington et dit qu'il eût dû faire quelques campagnes sous Kléber, etc. Il fait de Soult le premier général du monde. » Kléber était sans doute un grand général, mais dans Soult, ce n'est pas précisément la partie la plus forte. Il est bien plus encore un excellent ordonnateur, un bon ministre de la guerre. Ce Sarrasin, a-t-il continué, a déserté le camp de Boulogne, portant tous mes secrets aux Anglais. Cela pouvait avoir des suites fort graves. Sarrasin était général, cet acte fut hideux, irrémissible. Mais pourtant, regardez comme en révolution un homme peut être mauvais sujet, dévergondé et honté. Je l'ai trouvé à mon retour de l'île d'Elbe. Il m'attendait de pied ferme. Il m'écrivait une longue lettre dans laquelle il pactisait avec moi. Les Anglais étaient des misérables, écrivait-il. Il avait été longtemps au milieu d'eux. Il en avait été maltraité. Il connaissait leurs ressources, leurs moyens. Il allait m'être fort utile. Il savait que j'étais trop magnanime, trop grand pour me souvenir encore des torts qu'il avait pu avoir, etc. Je le fis arrêter. Et comme il avait déjà été jugé et condamné, je suis encore à savoir pourquoi on ne l'a pas fusillé. Il faut qu'on n'en ait pas eu le temps ou qu'il ait été oublié. C'était un châtiment que réclamait la patrie. Il ne saurait y avoir ni transaction ni indulgence pour le général qui a l'infamie de se prostituer à l'étranger. Le grand maréchal est arrivé. L'empereur, après avoir continué la conversation quelque temps, l'a emmené jouer aux échecs. Il souffrait beaucoup du mauvais temps. Après dîner, il nous a lu le Tartuffe, mais il n'a pas pu l'achever. Il se sentait trop fatigué. Il a posé le livre, et après le juste tribut d'éloges donné à Molière, il a terminé d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Certainement, a-t-il dit, l'ensemble du Tartuffe est de main de maître. C'est un des chefs-d'œuvre d'un homme inimitable. Toutefois, cette pièce porte un tel caractère que je ne suis nullement étonné que son apparition ait été l'objet de fortes négociations à Versailles et de beaucoup d'hésitations dans Louis XIV. Si j'ai le droit de m'étonner de quelque chose, c'est qu'il l'ait laissé jouer. Elle présente, à mon avis, la dévotion sous des couleurs si odieuses. Une certaine scène offre une situation si décisive, si complètement indécente, que, pour mon propre compte, je n'hésite pas à dire que si la pièce eût été faite dans mon temps, je n'en aurais pas permis la représentation. Mardi 20, violent accès d'indignation de ma part, qui amuse fort l'empereur. Sur les 4 heures, j'ai été joindre l'empereur, par ses ordres, dans la salle du billard. Le temps était toujours aussi affreux. Il ne lui avait pas permis, disait-il, de mettre le pied dehors, et pourtant il s'était vu chassé de la chambre et du salon par la fumée. Il m'a trouvé, disait-il, la figure toute renversée. C'était de l'indignation la plus vive, et il a voulu en connaître la cause. Il y a 2 ou 3 ans, ai-je dit, qu'un commis au bureau de la guerre, très brave homme pour ceux que j'en connais, venait chez moi donner des leçons d'écriture et de latin à mon fils. Il avait une fille dont il comptait faire une gouvernante et nous priait de la recommander si nous en trouvions l'occasion. Madame de Las Cazes se la fit amener. Elle était charmante et de l'ensemble le plus séduisant. À compter de cet instant, Madame de Las Cazes l'invitait parfois chez elle, cherchant à lui faire faire quelques connaissances dans le monde qui puissent lui être utiles. Or voilà que cette jeune personne, notre connaissance, notre amie, notre obligée, se trouve être précisément aujourd'hui la femme d'un des commissaires des puissances près de votre majesté, arrivé dans l'île il y a près d'un mois. Que votre majesté juge de mon étonnement et de toute ma joie à cette précieuse bizarrerie du hasard. Je vais donc, me disais-je, en dépit de tant d'obstacles, avoir des nouvelles positives, détaillées et secrètes même de tout ce qui m'intéresse. J'ai vu passer 8 ou 10 jours de silence sans inquiétude, même pas sans quelque contentement, car, pensais-je, plus on met de la circonspection, plus on doit avoir à me dire. Enfin, il y a 3 ou 4 jours, qu'entraîné par mon impatience, j'ai dépêché mon domestique vers la nouvelle arrivée. Je l'avais bien stylé, et son titre d'habitant de l'île lui facilitait l'accent, et sans nul inconvénient. Il est revenu, me disant que cette dame avait répondu qu'elle ne savait pas ce dont on voulait parler. À toute rigueur, je pouvais croire que c'était encore un excès de prudence et qu'elle n'avait pas voulu s'en fier à un inconnu. Mais voilà qu'aujourd'hui, je reçois du gouverneur l'avertissement de ne chercher à lier aucun rapport secret dans l'île, que je dois savoir à quoi je m'exposerai, que la tentative qu'il me reproche n'est point douteuse, car il la tient de la source même à laquelle je me suis adressé. Votre Majesté voit à présent ce qui m'a bouleversé. Trouver une si vilaine délation, où je devais supposer de l'intérêt, de la reconnaissance même, m'a indigné au dernier degré. Je suis hors de moi. L'empereur m'a ri au nez. Que vous connaissez peu le cœur humain, m'a-t-il dit. Quoi, son père a été précepteur de votre fils, ou quelque chose de semblable, votre femme l'a protégé dans sa nullité, et elle est devenue baronne allemande. Mais, mon cher, vous êtes celui qu'elle redoute le plus ici, qui la gêne davantage. Elle n'aura pas même vu votre femme à Paris. Et puis encore ce méchant Sir Hudson Lowe se sera plu peut-être à donner à la chose une tournure odieuse. Il est si astucieux, si méchant, et il a recommandé à se moquer de moi et de ma colère. Après dîner, l'empereur a continué le tartuffe qu'il n'avait pu achever hier, et cela a encore été assez pour aujourd'hui. L'empereur était accablé, le mauvais temps prend visiblement sur lui. Mercredi 21, Corvisart, etc., anecdote des salons de Paris. Le temps est toujours aussi affreux. L'humidité est au dernier point dans nos chambres, la pluie y pénètre de toutes parts. Le secrétaire du gouverneur m'a apporté une lettre d'Europe. Elle m'a procuré quelques instants de vrai bonheur. Elle m'a porté les souvenirs et les vœux de mes amis les plus chers. J'ai été la lire à l'empereur. L'empereur souffrait beaucoup de ce mauvais temps. Il a gagné son salon vers les 4 heures, il croyait avoir eu de la fièvre et se trouvait abattu. Il a demandé du punch et a fait quelques parties d'échecs avec le grand maréchal. Le docteur est venu de la ville. Les deux bâtiments arrivés venaient du Cap. L'un d'eux était le Podargus, parti d'Europe 10 jours avant le Griffon. L'autre était une petite frégate venant de l'Inde et retournant en Europe. Il y avait, nous a-t-on dit, une lettre pour l'empereur Napoléon, mais elle n'a pas été remise et nous ignorons ce que ce pouvait être. Après dîner, on a dit que les médicaments étaient épuisés dans l'île, et l'on observait que l'empereur ne serait pas accusé d'y avoir contribué. Cela l'a conduit à dire qu'il ne se rappelait pas d'avoir jamais pris une médecine. Aux Tuileries, ayant eu jusqu'à 3 vésicatoires à la fois, il les avait supprimés sans vouloir prendre de médecine. Il avait eu à Toulon une blessure grave, comme celle d'Ulysse, disait-il, celle à laquelle sa vieille nourrice l'avait reconnue, et il en avait guéri, tout en échappant de même aux médicaments. L'un de nous s'est permis de lui demander « Si votre majesté avait la dysenterie demain, se refuserait-elle encore aux médicaments ?»« À présent que je me porte bien, je réponds oui, sans hésiter, disait l'empereur, mais si je devenais bien malade, peut-être changerais-je, et ce serait alors en moi la conversion qu'amène la peur du diable dans l'homme qui va mourir. » Et alors il répétait son incrédulité à la médecine. Mais il n'en était pas ainsi, observait-il, de la chirurgie. Il avait, disait-il, commencé 3 fois des cours d'anatomie. Les affaires et le dégoût les avaient toujours interrompus. Dans certaines occasions, disait-il, à la suite d'une longue discussion, Corvisart, désireux de me parler, pièce en main, eut l'abomination, la scélératesse, de m'apporter à Saint-Cloud, dans son mouchoir de poche, un estomac, et cette horrible vue me fit rendre à l'instant même tout ce que j'avais dans le mien. L'empereur, après le dîner, a essayé d'une comédie, mais il était si fatigué et si souffrant qu'il a été contraint d'interrompre et de se retirer avant 9 heures. Je l'ai suivi, et comme il ne se sentait aucune envie de dormir, « Allons, mon cher, m'a-t-il dit, voyons, un conte sur votre faubourg Saint-Germain, comme dans les 1001 nuits, essayons de rire. » Eh bien, sire, il était autrefois un chambellan de votre majesté qui avait un grand-oncle, bien vieux, et je me souviens que votre majesté nous a raconté l'histoire d'un gros officier allemand qui, prisonnier au début de la campagne d'Italie, se plaignait qu'on eût envoyé pour les combattre un jeune étourneau qui détruisait le métier et le rendait insupportable. Or, nous avions parmi nous précisément son pareil. C'était le vieux grand-oncle, encore presque avec le costume de Louis XIV. Il donnait la comédie toutes les fois que vous nous faisiez parvenir quelques merveilles d'au-delà du Rhin. Vos bulletins d'Ulm et d'Iéna étaient pour lui autant de révolutions de bile. Il était loin de vous admirer. Vous gâtiez là aussi le métier. Il avait fait, répétait-il souvent, les campagnes du maréchal de Saxe. Et voilà, disait-il, qui étaient vraiment des prodiges de guerre, et qu'on n'avait pas assez apprécié. Alors, la guerre était sans doute un art, mais aujourd'hui, ajoutait-il en haussant les épaules. De notre temps, nous la faisions en toute décence. Nous avions nos mulets, nous étions suivis de nos cantines, nous avions notre tente. Oh, nous faisions bonne chère, nous avions même la comédie au quartier général. Les armées s'approchaient, on prenait de belles positions, on donnait une bataille, quelquefois on faisait un siège, et puis on prenait ses quartiers d'hiver pour recommencer au printemps. Voilà ce qui s'appelle, disait-il avec satisfaction, faire la guerre. Mais aujourd'hui, une armée tout entière disparaît devant une autre dans une seule bataille, et une monarchie est renversée. On parcourt 100 lieues de pays en 10 jours. « Dors qui peut, mange qui en trouve. Ma foi, si vous appelez ça du génie, moi je suis forcé d'avouer alors que je n'y entends plus rien. Aussi vous me faites pitié quand je vous vois le prendre pour un grand homme. » L'empereur riait aux éclats, surtout des cantines et des mulets. Puis il ajoutait « Vous disiez donc bien des bêtises à mon sujet. Eh oui, sire, et en grande abondance. » « Eh bien, nous sommes seuls, il n'y a pas d'intrus ici, dites encore. » Eh bien, sire, un jour, dans une société choisie, entre un beau, bien content de lui, ancien capitaine de cavalerie, ne doutant de rien. « J'arrive, nous dit-il, de la plaine des Sablons, je viens de voir manœuvrer notre Ostrogoth. » C'était votre majesté, sire. Il avait 2 ou 3 régiments qu'il a culbutés les uns sur les autres, et le tout a été se perdre dans les buissons. J'aurais voulu avec 50 maîtres, cavalier dans le temps passé, seulement pour le faire prisonnier, lui et tous les siens. « Réputation usurpée !» répétait-il. Aussi Moreau n'a cessé de dire que c'était à l'Allemagne qu'il l'attendait. On parle de guerre avec l'Autriche. Si elle a lieu, nous verrons comment il s'en tirera, on nous fera justice. La guerre eut lieu, et Votre Majesté, en très peu de jours, nous envoya le bulletin d'Ulm, celui d'Austerlitz, etc. Notre monsieur reparut dans notre cercle, et pour le coup, malgré toute notre bienveillance, nous écriâmes tous à la fois « Eh, vos 50 mètres !»« Oh, ma foi, dit-il, on n'y entend plus rien. Cet homme déroute tout, la fortune le mène par la main. Et puis, ces Autrichiens sont si lourds, si bêtes !» L'empereur riait beaucoup, et me demandait quelque chose de plus fort encore. Sire, cela devient bien difficile. Cependant, il me revient encore une vieille douairière qui est morte avec l'obstination de ne pas avoir voulu croire à aucun de vos succès en Allemagne. Quand on parlait devant elle d'Ulm, d'Austerlitz, de votre entrée à Vienne, « Mais vous croyez cela, vous autres ?» disait-elle, haussant les épaules. « Tout cela est fabriqué par lui. Il n'oserait pas mettre le pied en Allemagne. Vous croyez qu'il est encore derrière le Rhin, où il se meurt de peur et nous envoie des comptes. Le temps vous apprendra, si on m'en impose, à moi. » Et les histoires épuisées, l'empereur me renvoya, disant « Que font-ils? Que doivent-ils dire à présent? Certes, aujourd'hui, je leur donne beau jeu. » Jeudi 22. Aujourd'hui a été un véritable jour de deuil pour moi. C'est le premier jour depuis notre départ de France où je n'ai pas vu l'empereur. Des circonstances heureuses faisaient que j'étais le seul qui eût jusque-là joui de ce bonheur. Il a été fort souffrant, sa réclusion a été complète, il n'a demandé absolument personne. Vendredi 23, l'empereur continue d'être souffrant, pièce remarquable adressée à Sir Hudson Lowe. Le temps a continué d'être humide et pluvieux. Sur les 3h30, l'empereur m'a fait demander dans sa chambre, il faisait sa toilette, il avait été fortement incommodé. Mais grâce à sa manière de se traiter, disait-il, grâce à son hermétique réclusion de la veille, c'était fini, il était bien. J'ai osé lui témoigner ma véritable douleur. J'avais inscrit, lui disais-je, un jour malheureux dans mon journal. J'eusse dû le marquer à l'encre rouge. Et quand il a appris ce que c'était, « Comment, vraiment, a-t-il dit, c'est le seul jour depuis la France où vous ne m'ayez pas vu, et vous êtes le seul ?» Et après quelques secondes de silence, il a ajouté, d'un ton bien propre à me dédommager, « Oh, mais mon cher, si cela vous était d'un si grand prix, si vous y teniez tant, que n'êtes-vous venu frapper à ma porte? Je ne suis point inabordable pour vous. » Le docteur a été introduit. Il a dit que le gouverneur avait promis de ne plus mettre les pieds à Longwood. Un méchant qui était là a fait observer qu'il commençait à vouloir se rendre agréable. L'empereur a passé de là dans sa bibliothèque. Il s'est fait lire par mon fils une longue lettre que j'écrivais à Rome. L'humidité l'a chassé, il a gagné le salon, la salle de billard. Arrivé au perron, il n'a pu résister au désir de marcher un peu. « Ce que je fais n'est pas sage, a-t-il dit. » Heureusement, l'extrême humidité l'a forcé de rentrer presque aussitôt. Il s'est fixé dans le salon où il y avait un bon feu. Il a demandé de la tisane de fleurs d'oranger et a fait quelques parties d'échecs. Plus tard, après dîner, l'empereur a parcouru les contes de Marmontel et s'est arrêté sur le philosophe soi-disant. Il toussait beaucoup, il a redemandé de la fleur d'oranger. Il a disserté longtemps et de la manière la plus intéressante sur Jean-Jacques, son talent, son influence, sa bizarrerie, ses turpitudes privées. Il s'est retiré à 10 heures. Je suis bien fâché de ne pouvoir aujourd'hui me rappeler le détail de tous ces objets. Dans la journée, M. de Montholon a adressé la réponse officielle suivante au gouverneur qui avait écrit touchant les commissaires des puissances et les embarras de son budget. C'est la lettre que j'ai mentionnée plus haut, le 18 de ce mois. La voici. « Monsieur le Général, j'ai reçu le traité du 2 août 1815 conclu entre Sa Majesté britannique, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse qui était joint à votre lettre du 23 juillet. L'Empereur Napoléon proteste contre le contenu de ce traité. Il n'est point prisonnier de l'Angleterre. après avoir abdiqué entre les mains des représentants de la nation au profit de la constitution adoptée par le peuple français et en faveur de son fils, il s'est rendu volontairement et librement en Angleterre pour y vivre en particulier dans la retraite sous la protection des lois britanniques. La violation de toutes les lois ne peut pas constituer un droit de fait. La personne de l'empereur Napoléon se trouve au pouvoir de l'Angleterre, mais de fait ni de droit, il n'a été ni n'est au pouvoir de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, même selon les lois et coutumes de l'Angleterre, qui n'a jamais fait entrer dans la balance des prisonniers les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, les Espagnols, les Portugais, quoique unis à ces puissances par des traités d'alliance et faisant conjointement la guerre avec elles. La convention du 2 août, faite 15 jours après que l'empereur Napoléon était en Angleterre, ne peut avoir en droit aucun effet. Elle n'offre que le spectacle de la coalition des quatre plus grandes puissances d'Europe pour l'oppression d'un seul homme. Coalition que désavoue l'opinion de tous les peuples comme tous les principes de la saine morale. Les empereurs d'Autriche et de Russie, le roi de Prusse, n'ayant de fait ni de droit aucune action sur la personne de l'empereur Napoléon, ils n'ont pu rien statuer relativement à lui. Si l'empereur Napoléon eût été au pouvoir de l'empereur d'Autriche, ce prince se fût ressouvenu des rapports que la religion et la nature ont mis entre un père et un fils, un rapport qu'on ne viole jamais impunément. Il se fût ressouvenu que 4 fois Napoléon lui a restitué son trône. À Leoben en 1797, à Lunéville en 1801, lorsque ses armées étaient sous les murs de Vienne, à Presbourg en 1806 et à Vienne en 1809, lorsque ses armées étaient maîtresses de la capitale et des 3/4 de la monarchie. Ce prince se fut ressouvenu des protestations qu'il lui fit au bivouac de Moravie en 1806 et à l'entrevue de Dresde en 1812. Si la personne de l'empereur Napoléon eût été au pouvoir de l'empereur Alexandre, il se fût ressouvenu des liens d'amitié contractés à Tilsit, à Erfurt, et pendant 12 ans d'un commerce journalier. Il se fût ressouvenu de la conduite de l'empereur Napoléon le lendemain de la bataille d'Austerlitz, où, pouvant le faire prisonnier avec les débris de son armée, il se contenta de sa parole et lui laissa opérer sa retraite. Il se fût ressouvenu des dangers que, personnellement, l'empereur Napoléon a bravés pour éteindre l'incendie de Moscou et lui conserver sa capitale. Certes, ce prince n'eût pas violé les devoirs de l'amitié et de la reconnaissance envers un ami dans le malheur. Si la personne de l'empereur Napoléon eût été même au pouvoir du roi de Prusse, ce souverain n'eût pas oublié qu'il a dépendu de l'empereur, après Friedland, de placer un autre prince sur le trône de Berlin. Il n'eût point oublié un ennemi désarmé, les protestations de dévouement et les sentiments qu'il lui témoigna en 1812 aux entrevues de Dresde. Aussi voit-on, par les articles 2 et 5 du dit traité, que ne pouvant influer en rien sur le sort et la personne de l'empereur Napoléon, qui n'est pas en leur pouvoir, ces princes s'en rapportent à ce que fera là-dessus Sa Majesté britannique, qui se charge de remplir toutes les obligations. Ces princes ont reproché à l'empereur Napoléon d'avoir préféré la protection des lois anglaises à la leur. Les fausses idées que l'empereur Napoléon avait de la libéralité des lois anglaises et de l'influence d'un peuple grand, généreux et libre sur son gouvernement l'ont décidé à préférer la protection de ces lois à celle de son beau-père ou de son ancien ami. L'empereur Napoléon a toujours été le maître de faire assurer ce qui lui était personnel par un traité diplomatique, soit en se remettant à la tête de l'armée de la Loire, soit en se remettant à la tête de l'armée de la Gironde, que commandait le général Clausel. Mais ne cherchant désormais que la retraite et la protection des lois d'une nation libre, soit anglaise, soit américaine, toutes stipulations lui ont paru inutiles. Il a cru le peuple anglais plus lié par sa démarche franche, noble et pleine de confiance qu'il ne l'eût été par les traités les plus solennels. Il s'est trompé, mais cette erreur fera à jamais rougir les vrais Bretons. Et dans la génération actuelle, comme dans les générations futures, ce sera une preuve de la déloyauté de l'administration anglaise. Des commissaires autrichiens et russes sont arrivés à Sainte-Hélène. Si leur mission a pour but de remplir une partie des devoirs que les empereurs d'Autriche et de Russie ont contractés par le traité du 2 août et de veiller à ce que les agents anglais, dans une petite colonie au milieu de l'océan, ne manquent pas aux égards dus à un prince lié avec eux par des liens de parenté et par tant d'autres rapports, on reconnaît dans cette démarche des marques du caractère de ces deux souverains. Mais vous avez, monsieur, assuré que ces commissaires n'avaient ni le droit ni le pouvoir d'avoir aucune opinion sur tout ce qui peut se passer sur ce rocher. Le ministère anglais a fait transporter l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène, à 2 000 lieues de l'Europe. Ce rocher est situé sous le tropique, à 500 lieues de tout continent, est soumis à la chaleur dévorante de cette latitude. Il est couvert de nuages et de brouillard les trois quarts de l'année. C'est à la fois le pays le plus sec et le plus humide du monde. Ce climat est le plus contraire à la santé de l'empereur. C'est la haine qui a présidé au choix de ce séjour, comme aux instructions données par le ministère anglais aux officiers commandant dans ce pays. On leur a ordonné d'appeler l'empereur Napoléon « général », voulant l'obliger à reconnaître qu'il n'a jamais régné en France, ce qu'il a décidé à ne pas prendre un nom d'incognito comme il s'y était résolu en sortant de France. Premier magistrat à la vie de la République sous le titre de premier consul, il a conclu les préliminaires de Londres et le traité d'Amiens avec le roi de la Grande-Bretagne. Il a reçu pour ambassadeur Lord Cornwallis, M. Mary, Lord Whitworth, qui ont séjourné en cette qualité à sa cour. Il a accrédité auprès du roi d'Angleterre le comte Otto et le général Andreossi, qui ont résidé comme ambassadeurs à la cour de Windsor. Lorsqu'après un échange de lettres entre les ministères des affaires étrangères des deux monarchies, Lord Lauderdale vint à Paris muni des pouvoirs du roi d'Angleterre, il traita avec les plénipotentiaires munis de plein pouvoir de l'empereur Napoléon et séjourna plusieurs fois à la cour des Tuileries. Lorsque, depuis, à Châtillon, Lord Castlereagh signa l'ultimatum que les puissances alliées présentèrent aux plénipotentiaires de l'empereur Napoléon, il reconnut par là la 4e dynastie. Cet ultimatum était plus avantageux que le traité de Paris, mais on exigeait que la France renonçât à la Belgique et à la rive gauche du Rhin, ce qui était contraire aux propositions de Francfort et aux proclamations des puissances alliées, ce qui était contraire au serment par lequel, à son sacre, l'empereur avait juré l'intégrité de l'Empire. L'empereur pensait alors que ses limites naturelles étaient nécessaires à la garantie de la France comme à l'équilibre de l'Europe. Il pensait que la nation française, dans les circonstances où elle se trouvait, devait plutôt courir toutes les chances de la guerre que de s'en départir. La France eût obtenu cette intégrité, et avec elle conservé son honneur, si la trahison n'était venue au service des alliés. Le traité du 2 août, le bill du Parlement britannique, appelle Bonaparte l'empereur Napoléon, et ne lui donne que le titre de général. Le titre de général Bonaparte est sans doute éminemment glorieux. L'empereur le portait à Lodi, à Castiglione et à Rivoli, à Arcole, à Léobène, aux Pyramides, à Aboukir, mais depuis 17 ans, il a porté celui de premier consul et d'empereur. Ce serait convenir qu'il n'a été ni premier magistrat de la République, ni souverain de la 4e dynastie. Ceux qui pensent que les nations sont des troupeaux qui, de droit divin, appartiennent à quelques familles, ne sont ni du siècle, ni même dans l'esprit de la législature anglaise, qui changea plusieurs fois l'ordre de sa dynastie, parce que les grands changements survenus dans les opinions auxquels n'avaient pas participé les princes régnants, les avaient rendus ennemis du bonheur et de la grande majorité de cette nation. Car les rois ne sont que des magistrats héréditaires qui n'existent que pour le bonheur des nations, et non les nations pour la satisfaction des rois. C'est le même esprit de haine qui a ordonné que l'empereur Napoléon ne pût écrire ni recevoir aucune lettre sans qu'elle soit ouverte et lue par les ministres anglais et les officiers de Sainte-Hélène. On lui a, par là, interdit la possibilité de recevoir des nouvelles de sa mère, de sa femme, de son fils et de ses frères. Et lorsque, voulant se soustraire aux inconvénients de voir ses lettres lues par des officiers subalternes, il a voulu envoyer des lettres cachetées au prince régent, on a répondu qu'on ne pouvait se charger que de laisser passer des lettres ouvertes, que telles étaient les instructions du ministère. Cette mesure n'a pas besoin de réflexion. elle donnera d'étranges idées de l'esprit de l'administration qui les a dictées. Elle serait désavouée à Alger même. Des lettres sont arrivées pour des officiers généraux de la suite de l'empereur. Elles étaient décachetées et vous furent remises. Vous ne les avez pas communiquées parce qu'elles n'étaient pas passées par le canal du ministère anglais. Il fallut leur faire refaire 4 000 lieues, et ces officiers eurent la douleur de savoir qu'il existait sur ce rocher des nouvelles de leurs femmes, de leurs mères, de leurs enfants, et qu'ils ne pouvaient les connaître que dans 6 mois. Le cœur se soulève. On n'a pas pu obtenir d'être abonné au Morning Chronicle, au Morning Post et à quelques journaux français. De temps à autre, on fait passer à Longwood quelques numéros dépareillés du Times. Sur la demande faite à bord du Northumberland, on a envoyé quelques livres, mais tous ceux relatifs aux affaires des dernières années ont été soigneusement écartés. Et depuis, on a voulu correspondre avec un libraire de Londres pour avoir directement les livres dont on pouvait avoir besoin et ceux relatifs aux événements du jour. On l'a empêché. Un auteur anglais, ayant fait un voyage en France et l'ayant imprimé à Londres, a pris la peine de nous l'envoyer pour l'offrir à l'empereur. Mais vous n'avez pas cru pouvoir le lui remettre parce qu'il ne vous était pas parvenu par la filière de votre gouvernement. On dit aussi que d'autres livres envoyés par leurs auteurs n'ont pu être remis parce qu'il y avait sur l'inscription de quelques-uns à l'empereur Napoléon et sur d'autres à Napoléon le Grand. Le ministère anglais n'est autorisé à ordonner aucune de ces vexations. La loi, quoique unique, considère l'empereur Napoléon comme prisonnier de guerre. Or, jamais on n'a défendu aux prisonniers de guerre de s'abonner aux journaux, de recevoir les livres qui s'impriment. Une telle défense n'est faite que dans les cachots de l'Inquisition. L'île de Sainte-Hélène a 10 lieues de tour. Elle est inabordable de toutes parts. Les briques enveloppent la côte. Les postes placés sur le rivage peuvent se voir de l'un à l'autre et rendent impraticable la communication avec la mer. Il n'y a qu'un seul petit bourg, Jamestown, où mouillent et d'où s'expédient les bâtiments. Pour empêcher un individu de s'en aller de l'île, il suffit d'exercer la surveillance de la côte par terre et par mer. En interdisant l'intérieur de l'île, on ne peut donc avoir qu'un but, celui de priver d'une promenade de 8 ou 10 milles qu'il serait possible de faire à cheval et dont, d'après l'avis des hommes de l'art, la privation abrège les jours de l'empereur. On a établi l'empereur dans la position de Longwood, exposé à tous les vents. Terrain stérile, inhabité, sans eau, n'étant susceptible d'aucune culture. Il a une enceinte d'environ 1 200 toises incultes. À 1 100 ou 1 200 toises, sur un mamelon, on a établi un camp. On vient d'en placer un autre, à peu près à la même distance, dans une direction opposée, de sorte qu'au milieu de la chaleur du tropique, de quelque côté qu'on regarde, on ne voit que des camps. L'amiral Malcolm, ayant compris l'utilité dont, dans cette position, une tente serait pour l'empereur, en a fait établir une par ses matelots, à 20 pas de la maison. C'est le seul endroit où l'on puisse trouver de l'ombre. Toutefois, l'empereur n'a lieu que d'être satisfait de l'esprit qui anime les officiers et soldats du 53e, comme il l'avait été de l'équipage du Northumberland. La maison de Longwood a été construite pour servir de grange à la ferme de la compagnie. Depuis, le sous-gouverneur de l'île y a fait établir quelques chambres. Elles lui servaient de maison de campagne, mais elles n'étaient en rien convenables pour une habitation. Depuis 1 an qu'on y est, on y a toujours travaillé, et l'empereur a constamment eu l'incommodité et l'insalubrité d'habiter une maison en construction. La chambre dans laquelle il couche est trop petite pour contenir un lit de dimension ordinaire. Mais toute bâtisse à Longwood prolongerait l'incommodité des ouvriers. Cependant, dans cette misérable île, il existe de belles positions offrant de beaux arbres, des jardins et d'assez belles maisons, entre autres Plantation House. Mais des instructions positives du ministère vous interdisent de donner cette maison, ce qui eût épargné beaucoup de dépenses employées à bâtir à Longwood des cahutes couvertes de papier goudronné et qui sont déjà hors de service. Vous avez interdit toute correspondance entre nous et les habitants de l'île, vous avez mis de fait la maison de Longwood au secret, vous avez même entravé les communications avec les officiers de la garnison. On semble s'être étudié pour nous priver du peu de ressources qu'offre ce misérable pays et nous y sommes comme nous serions sur le rocher de l'Ascension. Depuis 4 mois que vous êtes à Sainte-Hélène, vous avez, monsieur, empiré la position de l'empereur. Le comte Bertrand vous a fait observer que vous violiez même la loi de votre législature, que vous fouliez aux pieds les droits des officiers généraux prisonniers de guerre. Vous avez répondu que vous ne connaissiez que la lettre de vos instructions, qu'elles étaient pires encore que nous paraissait votre conduite. J'ai l'honneur, etc., etc. Signé le comte de Montholon. Post-scriptum. J'avais signé cette lettre, monsieur, lorsque j'ai reçu la vôtre du 17. Vous y joignez le compte par aperçu d'une somme annuelle de 20 000 livres sterling que vous jugez indispensable pour subvenir aux dépenses de l'établissement de Longwood après avoir fait toutes les réductions que vous avez cru possibles. La discussion de cet aperçu ne peut nous regarder en aucune manière. La table de l'empereur est à peine le strict nécessaire. Tous les approvisionnements sont de mauvaise qualité et 4 fois plus chers qu'à Paris. Vous demandez à l'empereur un fonds de 12 000 livres sterling, votre gouvernement ne vous allouant que 8 000 livres sterling pour toutes ces dépenses. J'ai eu l'honneur de vous dire que l'empereur n'avait pas de fonds, que depuis un an on n'a reçu ni écrit aucune lettre, et qu'il ignorait complètement tout ce qui se passe ou a pu se passer en Europe. Transporté violemment sur ce rocher, à 2 000 lieues, sans pouvoir recevoir ou écrire une lettre, il se trouve aujourd'hui entièrement à la discrétion des agents anglais. L'empereur a toujours désiré et désire pourvoir lui-même à toutes ses dépenses quelconques, et il le fera aussitôt que vous le lui rendrez possible, en levant l'interdiction faite aux négociants de Lille de servir sa correspondance, et qu'elle ne sera soumise à aucune inquisition de votre part ou d'aucun de vos agents. Dès que l'on connaîtra en Europe les besoins de l'empereur, les personnes qui s'intéressent à lui enverront les fonds nécessaires pour y pourvoir. La lettre de Lord Bathurst que vous m'avez communiquée fait naître d'étranges idées. Vos ministres ignoreraient-ils que le spectacle d'un grand homme aux prises avec l'adversité est le spectacle le plus sublime? Ignoreraient-ils que Napoléon, à Sainte-Hélène, au milieu des persécutions de toute espèce auxquelles il n'oppose que la sérénité, est plus grand, plus sacré, plus vénérable que sur le premier trône du monde où si longtemps il fut l'arbitre des rois? Ceux qui, dans cette position, manquent à Napoléon n'avilissent que leur propre caractère et la nation qu'il représente. Et samedi 24, ma famille anglaise, juste dette de reconnaissance de l'immigration envers les Anglais, etc., général Joubert, Pétersbourg, Moscou, son incendie, projet de Napoléon s'il fut revenu vainqueur. J'ai été sur les 2 heures joindre l'empereur dans sa chambre. Il m'avait, dès le matin, fait demander mon atlas. Je l'ai trouvé achevant de parcourir la carte de la Russie et la partie de l'Amérique avoisinant les établissements russes. Il avait beaucoup souffert durant la nuit, beaucoup toussé. Cependant, le temps était redevenu tout à fait doux. Il s'était habillé pour sortir. Durant sa toilette, il revenait souvent sur l'heureuse idée de l'Atlas, le mérite de son exécution, l'immensité des choses qu'il contenait, finissant comme de coutume par dire « Ah, quel recueil, quel détail, quel ensemble, etc. » L'empereur a gagné le jardin. Je lui ai dit que j'avais écrit le matin en Angleterre et répondu à une lettre que je lui avais lue 2 ou 3 jours auparavant. « Votre famille anglaise, m'a-t-il dit alors, semble composée de bien braves gens. Ils vous aiment beaucoup et vous leur êtes bien attachés. » « Sire, ai-je répondu, je les ai soignés en France durant leurs 10 années de captivité et ils avaient pris soin de moi en Angleterre durant mes 10 années d'émigration. C'est désormais entre nous tout à fait l'hospitalité des anciens. Je compte sur eux en toutes choses et ils pourraient disposer de toute ma fortune. » « Voilà une liaison bien heureuse, a-t-il dit. Qui est-ce qui vous l'a procurée? Comment est-elle venue ?» Je lui ai fait alors l'histoire de ma connaissance avec cette famille. « Jamais, lui disais-je, la planche de laquelle le malheureux naufragé reçut son salut ne lui fut plus chère que ne me l'est cette famille. Sire, il n'est point de faveur, il n'est point de trésor qui puisse acquitter les soins que j'en ai reçus, ni le bonheur qu'elle m'a donné. Quand les hideux excès de notre révolution nous forcèrent d'aller chercher notre refuge en Angleterre, notre émigration lui causa la plus vive sensation. L'arrivée de tant d'illustres exilés, leur fortune passée, leur affreuse condition présente, occupèrent tous les esprits, remplirent tous les sentiments. Il en fut question dans les assemblées politiques, dans les églises, dans les cercles, dans les ménages. Cette catastrophe remua toutes les classes, excita toutes les sympathies. Une foule généreuse et sensible s'empressa autour de nous. Nous fûmes l'objet des soins les plus délicats et des bienfaits les plus réels. Et tel fut, il faut l'avouer, le spectacle attendrissant que présenta la grande portion de la société d'Angleterre, en dépit même du dissentiment d'opinion. C'est un témoignage que notre reconnaissance doit à la vérité de l'histoire. Or, je me trouvais à Londres avec une cousine de mon nom, que sa place à la cour de Versailles avait mise à même d'être agréable à tout ce qu'il y avait de distingué en Europe, lorsqu'elle était dame d'honneur de la princesse de Lamballe, qui était elle-même sous-intendante de la maison de la reine. Cette circonstance se trouva heureuse pour ma famille. La plus grande bienveillance entoura ma parente. Un grand nombre de personnes accoururent auprès d'elle, entre autres un jeune ménage. La femme était charmante, pleine de manières nobles et grandes. Elle était française. Le mari, doux, facile, plein d'honneur. Ils avaient une grande fortune, un bon cœur. Leur maison devint presque aussitôt celle de ma cousine et de tous les siens qui purent s'y croire dans leur propre famille. Ce digne ménage fut sans cesse plein de persévérance et de soins pour nos réfugiés. On voyait constamment chez eux ce que l'émigration avait de plus distingué. Nous sommes un grand nombre qui contractâmes envers eux une dette de reconnaissance qui, malgré toute son étendue, ne saurait effrayer mon cœur, dussé-je l'acquitter à moi seul. Je la léguerai à mes enfants, qui, s'ils me ressemblent, la tiendront pour sacrée et seront heureux de pouvoir jamais l'acquitter à leur tour. L'élévation d'âme et le cœur français étaient caractéristiques chez Lady. Lorsque le prince de Condé, arrivé à Londres, cherchait une demeure à la campagne, elle me dépêcha pour lui offrir la superbe maison qu'elle possédait dans le comté de Durham. Le prince, après s'en être fait donner les détails, ayant remarqué que cela lui coûterait sans doute la rançon d'un roi, fut agréablement ému d'entendre qu'elle lui était offerte par une Française qui croirait, disait-elle, en avoir reçu un prix inestimable si un Condé daignait l'habiter, et il voulut aussitôt l'aller remercier en personne. Cette famille vint à Paris après la paix d'Amiens, et ce fut en contrebande au milieu d'elle, à la faveur de son intimité, que je respirai quelques jours plus tôt l'air de la patrie. J'évitai par elle les longues et pénibles formalités que l'acte d'amnistie exigeait de moi à la frontière, et je dus à ses amis de pouvoir les remplir à Paris avec beaucoup plus de facilité et moins de désagréments. Mais aussi, lors de la mesure d'arrestation contre les Anglais voyageurs qui mit cette famille au nombre des détenus, j'eus le bonheur inestimable d'adoucir à mon sort la situation et de devenir son répondant. Le temps, les événements nous ont enfin séparés, mais ils n'ont rien pu sur mes souvenirs, et l'aiguille aimantée est moins constante, moins fidèle dans sa direction que ne le sont mes pensées et ma reconnaissance envers ces bons et chers amis. Tel est, sire, ce que Votre Majesté appelle ma famille anglaise. Cependant, durant mon histoire, nous avions marché vers l'écurie et demandé la calèche. L'empereur a voulu qu'elle vînt nous joindre au fond du bois. Elle se fait longtemps attendre parce que madame de Montholon s'était trouvée indisposée. Son mari est arrivé pour excuser ce retard et l'empereur a voulu qu'il montât. La conversation a été, durant toute la course, sur le général Joubert, dont monsieur de Montholon avait été le beau-frère et l'aide de camp. Joubert avait une haute vénération pour moi, a dit l'empereur. À chaque revers éprouvé par la République durant l'expédition d'Égypte, il déplorait mon absence. Se trouvant en cet instant chef de l'armée d'Italie, il m'avait pris pour modèle, aspirait à me recommencer, et ne prétendait à rien moins qu'à tenter ce que j'ai exécuté depuis en Brumaire, seulement il eût agi avec les Jacobins. Les mesures et les intrigues de ce parti, pour le mettre sur la voie de cette grande entreprise, l'avaient porté au commandement en Italie après les désastres de Scherer. De ce Scherer, dilapidateur ignorant, digne de tous les blâmes. Mais Joubert fut tué à Novi dans son premier choc contre Souvarov. Il n'eût exécuté à Paris qu'une échauffourée. Il n'avait point encore assez de gloire, de consistance, de maturité. Il était de nature à acquérir tout cela, mais en cet instant, il n'était pas assez fait. Il était trop jeune encore, et cette entreprise était, pour le moment, au-dessus de ses forces. Au reste, voici le portrait de ce général, dicté par l'empereur pour ses campagnes d'Italie, et dont je trouve le brouillon. Joubert, né au département de l'Ain, dans l'ancienne Bresse, avait étudié pour le barreau. La Révolution lui fit prendre le parti des armes. Il servit à l'armée d'Italie et y fut fait général de brigade. Il était grand, maigre, semblait naturellement d'une faible complexion, mais il l'avait mis à l'épreuve des grandes fatigues dans les Alpes et s'y était endurci. Il était intrépide, vigilant, fort actif, marchant à la tête des colonnes. Il fut fait général de division pour remplacer Vaubois, dont il prit le corps d'armée. Il se fit beaucoup d'honneur dans la campagne de Leoben, commandant l'aile gauche qui amena au gros de l'armée des montagnes du Tyrol par les défilés du Puterstall. Il était fort attaché à Napoléon, qui le chargea de porter au directoire les derniers drapeaux enlevés par l'armée d'Italie. Resté à Paris pendant la campagne d'Égypte, il y épousa la fille du sénateur Sémonville, mariée depuis au maréchal Macdonald. Ce mariage le jeta dans les intrigues du manège et le fit nommer général en chef de l'armée d'Italie après la défaite de Scherer. Il fut tué à la bataille de Novi. Il était jeune encore et n'avait pas acquis toute l'expérience nécessaire. Il eût pu arriver à une grande renommée. L'empereur n'a pu faire qu'un tour. Il se trouvait trop fatigué. Il était loin d'être bien. À 8h30, l'empereur m'a fait appeler. Il avait été obligé de se mettre au bain, m'a-t-il dit, et croyait avoir un peu de fièvre. Il s'était senti subitement enrhumé, mais il ne toussait plus depuis qu'il était dans l'eau. Il y était depuis longtemps, il y a dîné. On a dressé pour moi une petite table à côté. L'empereur est revenu sur l'histoire de Russie. Pierre le Grand, disait-il, avait-il bien fait de fonder une capitale à Pétersbourg à si grands frais? N'eût-il pas obtenu de bien plus grands résultats s'il eût dépensé tout son argent à Moscou? Quel avait été son but? L'avait-il atteint? Je répondais, si Pierre fût resté à Moscou, sa nation fût demeurée moscovite, un peuple tout à fait asiatique. Il avait fallu la déplacer pour la réformer et la changer. Alors il s'était transporté sur les frontières même, enlevé à l'ennemi, et en y assaillant sa capitale, en y accumulant toutes ses forces, il la rendait plus invulnérable. Il s'affiliait à la société européenne. Il s'établissait dans la mer Baltique, d'où il tournait facilement ses ennemis naturels, les Polonais et les Suédois, pour venir s'allier au besoin avec les nations placées derrière eux, etc., etc. L'empereur disait n'être pas tout à fait satisfait de ses raisons. Quoi qu'il en soit, disait-il, Moscou a disparu, et qui peut assigner les richesses qui y ont été dévorées? Qu'on se figure, ajoutait-il, Paris, avec l'accumulation de l'industrie et des travaux des siècles, son capital, depuis 1400 ans qu'elle existe, cette cité, ne se fût-il accru que d'1 million par an? Quelle somme! Qu'on joigne à cela les magasins, le mobilier, la réunion des sciences, des arts, les correspondances d'affaires et de commerce, toutes établies, etc. Et pourtant, voilà Moscou, et tout cela a disparu en un instant. Quelle catastrophe! La seule idée n'en fait-elle pas frémir? Je ne pense pas que pour 2 milliards on pût le rétablir. L'empereur s'est étendu longuement sur tous ces événements et a laissé échapper une parole trop caractéristique pour que je ne l'aie pas notée. Le nom de Rostopchine ayant été prononcé, j'ai osé observer que la couleur donnée dans le temps à son acte patriotique m'avait fort surpris, car il m'avait ému, loin de m'indigner. Bien plus, je l'avais envié. À quoi l'empereur a répondu avec une vivacité singulière et dans une espèce de contradiction qui trahissait le début. Si beaucoup à Paris eussent pu le dire et sentir de la sorte, croyez que je leur aurais vanté, mais je n'avais pas le choix. Et revenant à Moscou, il a dit « Jamais, en dépit de la poésie, toutes les fictions de l'incendie de Troie n'égalèrent la réalité de celui de Moscou. La ville était de bois, le vent était violent, toutes les pompes avaient été enlevées. C'était littéralement un océan de feu. Rien n'en avait été soustrait, tant notre marche avait été rapide et notre entrée soudaine. Nous trouvâmes jusqu'à des diamants sur la toilette des femmes, tant elles avaient fui avec précipitation. Elles nous écrivirent à quelque temps de là qu'elles avaient cherché à échapper au premier moment d'une soldatesque dangereuse, qu'elles recommandaient leurs biens à la loyauté des vainqueurs et ne manqueraient pas de reparaître sous peu de jours pour solliciter leurs bienfaits et leur apporter leur reconnaissance. La population, ajoutait l'empereur, était loin d'avoir comploté cet attentat. C'est même elle qui nous livra les 300 ou 400 malfaiteurs échappés des prisons qu'il avait exécutées. Mais, osais-je demander, sire, si Moscou n'eût pas été livrée aux flammes, votre majesté comptait-elle y prendre ses quartiers ? Sans doute, a répondu l'empereur, et j'aurais alors donné le spectacle singulier d'une armée hivernant paisiblement au milieu d'une nation ennemie qui la presse de toutes parts, c'eût été le vaisseau pris par les glaces. Vous vous seriez trouvé en France privé plusieurs mois de mes nouvelles, mais vous fussiez demeuré tranquille, vous eussiez été sage. Cambacérès, comme de coutume, eût mené les affaires en mon nom et tout eût été son train comme si j'eusse été présent. L'hiver en Russie eût pesé sur tout le monde, l'engourdissement eût été général. Le printemps fut revenu aussi pour tout le monde, chacun se fut réveillé à la fois, et l'on sait que les Français sont aussi lestes qu'aucuns. Au premier retour de la belle saison, j'eusse donc marché aux ennemis. Je les eusse battus, j'eusse été maître de leur empire. Mais Alexandre, croyez-le bien, ne m'eût pas amené jusque-là. Il eût passé avant par toutes les conditions que j'eusse dictées, et alors la France eût enfin commencé à pouvoir jouir. Et vraiment, cela a tenu à bien peu de choses, car j'avais été pour combattre des hommes en armes et non à la nature en courroux. J'ai défait des armées, mais je n'ai pu vaincre les flammes, la gelée, l'engourdissement, la mort. Le destin a dû être plus fort que moi. Et pourtant, quel malheur pour la France, pour l'Europe. La paix dans Moscou accomplissait et terminait mes expéditions de guerre. C'était pour la grande cause, la fin des hasards et le commencement de la sécurité. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se dérouler, tout plein du bien-être et de la prospérité de tous. Le système européen se trouvait fondé, il n'était plus question que de l'organiser. Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congrès et ma sainte alliance. Ce sont des idées qu'on m'a volées. Dans cette réunion de tous les souverains, nous eussions traité de nos intérêts en famille et compté de clair à maître avec les peuples. La cause du siècle était gagnée, la révolution accomplie. Il ne s'agissait plus que de la raccommoder avec ce qu'elle n'avait pas détruit. Or, cet ouvrage m'appartenait. Je l'avais préparé de longue main, aux dépens de ma popularité peut-être. N'importe, je devenais l'arche de l'ancienne et de la nouvelle alliance, le médiateur naturel entre l'ancien et le nouvel ordre des choses. J'avais les principes et la confiance de l'un, je m'étais identifié avec l'autre, j'appartenais à tous les deux. J'aurais fait en conscience la part de chacun. Ma gloire eût été dans mon équité. Et après avoir énuméré ce qu'il eût proposé de souverain à souverain et de souverain à peuple, « Fort comme nous l'étions, continuait-il, tout ce que nous eussions concédé eût semblé grand. Il nous eût mérité la reconnaissance des peuples. Aujourd'hui, ce qu'ils arracheront ne leur semblera jamais assez, et ils ne cesseront de se défier ni d'être mécontents. » Il passait ensuite en revue ce qu'il eût proposé pour la prospérité, les intérêts, la jouissance et le bien-être de l'association européenne. Il eût voulu les mêmes principes, le même système partout. Un code européen, une cour de cassation européenne redressant pour tous les erreurs comme la nôtre redresse chez nous celles de nos tribunaux, une même monnaie sous des coins différents, les mêmes poids, les mêmes mesures, les mêmes lois, etc., etc. L'Europe, disait-il, n'eut bientôt fait de la sorte véritablement qu'un même peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouvé toujours dans la patrie commune. Il eut demandé toutes les rivières navigables pour tous, la communauté des mers, que les grandes armées permanentes fussent réduites désormais à la seule garde des souverains, etc. Enfin, c'était une foule d'idées, la plupart nouvelles, les unes les plus simples, d'autres tout à fait sublimes, sur les diverses branches politiques, civiles, législatives, sur la religion, les arts, le commerce. Elles embrassaient tout. Il a conclu « De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, j'eusse proclamé ses limites immuables, toute guerre future purement défensive, tout agrandissement nouveau antinational. J'eusse associé mon fils à l'Empire, ma dictature eût fini et son règne constitutionnel eût commencé. Paris eût été la capitale du monde et les Français l'envie des nations. » Mes loisirs ensuite et mes vieux jours eussent été consacrés, en compagnie de l'impératrice et durant l'apprentissage royal de mon fils, à visiter, lentement et en vrai couple campagnard, avec nos propres chevaux, tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, semant de toutes parts et partout les monuments et les bienfaits. Mon cher, voilà encore de mes rêves. » L'empereur avait beaucoup parlé de l'intérieur de la Russie, de la prospérité de laquelle nous n'avions nul soupçon, disait-il. Il s'était arrêté beaucoup sur Moscou, qu'il avait fort étonné sous tous les rapports, et pouvait supporter sans embarras le parallèle avec toutes les capitales de l'Europe dont il surpassait le plus grand nombre. « Malheureusement, je ne trouve ici que des indications et je ne saurais plus aujourd'hui reproduire aucun des développements. » Les clochers dorés de Moscou avaient surtout frappé ses regards, et c'est ce qui le porta, lors de son retour, à faire redorer le dôme des Invalides. Il se proposait d'appliquer cet embellissement à beaucoup d'autres édifices de Paris. Nota bene, comme la ville de Moscou semble avoir été différente de l'idée que nous nous formions en général dans notre Occident, je pense qu'il sera agréable d'en trouver la description fournie par un témoin oculaire, personnage important de l'expédition, le baron Larrey, chirurgien en chef de la grande armée. Je tire cette description d'un ouvrage de ce savant célèbre, « Les mémoires de la chirurgie militaire », peu répandu, peut-être à cause de sa nature particulièrement scientifique. C'est au moment de se mettre en route pour Moscou, après la bataille de Mozaïsk ou de la Moscova. À peine étions-nous, y est-il dit, éloignés de quelques milles de Mozaïsk, que nous fûmes tout étonnés de nous trouver, malgré le voisinage où l'on était d'une des plus grandes capitales du monde, sur une plaine sablonneuse, aride et complètement déserte. L'aspect lugubre de cette solitude qui jetait tous les soldats dans le découragement semblait nous présager la désertion entière de Moscou et les malheurs qui nous attendaient dans cette cité dont la richesse devait nous promettre un autre sort. L'armée traversa cet espace avec peine. Les chevaux étaient harassés, épuisés par la faim et la soif, car l'eau était aussi rare que les fourrages. Les hommes eurent aussi beaucoup à souffrir. On était en effet accablé de fatigue et privé de subsistance. La troupe n'avait reçu depuis longtemps aucune distribution, et le peu de ressources que l'on trouva dans Mozaïsk ne servit qu'à la jeune et la vieille garde. Un assez grand nombre de conscrits de ce premier corps furent victimes de l'abus qu'ils firent du schnapps, eau-de-vie du pays. On les voyait s'éloigner à quelques pas de leurs compagnons, chanceler, tourner sur eux-mêmes, puis tomber sur leurs genoux ou s'asseoir involontairement. Ils restaient immobiles dans cette attitude et expiraient bientôt après, sans proférer une seule plainte. Ces jeunes sujets étaient prédisposés aux effets pernicieux de cette liqueur par l'ennui, les privations et les fatigues excessives. Cependant, nous arrivâmes le 14 septembre au soir dans l'un des faubourgs de Moscou. Nous y apprîmes que l'armée russe, à son passage dans la ville, avait entraîné avec elle tous les citoyens et les fonctionnaires publics. Il n'était resté que quelques gens du bas peuple et de la domesticité. en sorte qu'en parcourant les principales rues de cette grande cité où nous entrâmes le lendemain au matin, nous ne rencontrâmes presque personne. Toute la maison était entièrement abandonnée. Mais ce qui nous surprit beaucoup, ce fut de voir le feu se manifester dans plusieurs quartiers éloignés où aucun de nos soldats n'avait encore paru, et particulièrement dans le bazar du Kremlin, un bâtiment très vaste, garni de portiques qui ont quelque ressemblance avec ceux du Palais Royal à Paris. D'après ce que nous avions vu sur notre passage, en traversant la petite Russie, nous restâmes étonnés de la grandeur de Moscou, du grand nombre d'églises et de palais qu'il renfermait, de la belle architecture de ses édifices, de la distribution commode des maisons principales, de la richesse de l'ameublement et de tous les objets de luxe que l'on y trouvait dans la plupart. Les rues sont généralement spacieuses, régulières et bien percées. Rien ne semblait être en discordance dans cette cité. Tout annonçait son opulence et le commerce immense qu'elle faisait des produits des quatre parties du monde. La construction variée des palais, des maisons et des églises ajoutait infiniment à la beauté de la ville. Il y avait des quartiers qui, par le genre d'architecture des différents édifices, indiquaient par quelle nation, en général, ils étaient habités. Ainsi, on distinguait facilement le quartier des Francs, celui des Chinois ou des Indiens, celui des Allemands. Le Kremlin pouvait être considéré comme la citadelle de Moscou. Il est au centre de la ville, sur un promontoire assez élevé, entouré d'une muraille à créneaux et flanqué de distance en distance par des tours armées de canons. Le bazar dont nous avons parlé, ordinairement rempli de marchandises de l'Inde et de fourrures précieuses, était devenu la proie des flammes, et l'on ne put profiter que des objets qui avaient été emmagasinés dans les caves où les soldats pénétrèrent après l'incendie qui consuma presque tout l'extérieur de ce bel édifice. Le palais des empereurs, celui du Sénat, les archives, l'arsenal et deux temples fort anciens occupent le reste du Kremlin. Ces riches monuments, d'une riche architecture, se présentent majestueusement tout autour de la place d'armes. On s'imagine être transporté sur la place publique de l'antique Athènes, où l'on admirait d'un côté l'Aréopage et le temple de Minerve, de l'autre l'Académie et l'Arsenal. Entre les deux temples s'élève une tour cylindrique en forme de colonne, désignée sous le nom de tour d'Ivan. C'est plutôt un minaret égyptien, dans l'intérieur duquel on a suspendu plusieurs cloches de diverses grandeurs. Au pied de cette tour, on en voit une d'une grosseur prodigieuse dont il est parlé par tous les historiens. Du haut de la tour, on découvre toute la ville et ses environs. Elle se dessine sous la forme d'une étoile à quatre branches bifurquées. Les couleurs variées des toits des maisons, l'or et l'argent qui recouvrent les dômes et les chapiteaux des clochers, dont le nombre est considérable, donnent à cette cité l'aspect le plus pittoresque. Rien n'égale la richesse de l'un des temples où l'église du Kremlin, c'était le tombeau des empereurs, et ses parois sont recouvertes de plaques de vermeil de 5 à 6 lignes d'épaisseur sur lesquelles est représentée en relief l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les lustres et les candélabres d'argent massif étaient surtout remarquables par leurs proportions extraordinaires. Les hôpitaux qui fixèrent particulièrement mon attention sont dignes de la nation la plus civilisée du monde. Je les distingue en hôpitaux militaires et en hospices civils. Le grand hôpital militaire est divisé en 3 parties, présentant ensemble un parallélogramme. La partie principale a été construite sur le bord d'une grande route, en face d'une caserne immense que l'on peut comparer à l'école militaire de Paris. 2 bâtiments latéraux, en coupant à angle droit le premier, forment l'enceinte de la cour, d'où l'on communique dans un beau et vaste jardin qui sert de promenade aux malades. Un portique à colonne d'ordre composite forme la façade de ce bâtiment élevé de 2 étages. On entre d'abord dans un vestibule spacieux où correspondent les portes d'entrée des salles du rez-de-chaussée et où est placé un grand et magnifique escalier qui conduit aux étages supérieurs. Les salles occupent toute la longueur du bâtiment. Elles sont percées de chaque côté de fenêtres qui vont du plancher jusqu'au plafond. Elles sont à double châssis de vitres, comme dans toute la Russie, et parfaitement closes en hiver. Des poêles sculptées sont placées dans l'intérieur, aux distances convenables. Il règne dans les salles quatre rangs de lits uniformes, séparés par les espaces que commande la salubrité. Chaque rang est composé de 50 lits, dont le nombre total pouvait se monter à plus de 3000. Les trois corps de logis de l'hôpital renferment 14 salles principales, à peu près de la même étendue. Les usines, la pharmacie, la cuisine et tous les accessoires sont établis très commodément dans autant d'endroits isolés à portée des salles. Cet hôpital est un des mieux construits, des plus vastes et des plus beaux que j'ai jamais vus. Les hospices civils sont également dignes d'attention. Les quatre principaux sont l'hôpital de Cheremetev, celui de Galitsyn, l'hôpital d'Alexandre et celui des enfants trouvés. Le premier, remarquable par sa forme, sa construction et ses distributions intérieures, fut destiné à recevoir les blessés et malades de la garde. Cet hospice, élevé de trois étages, a la forme d'un croissant. Derrière cet édifice se trouvent les accessoires. Un beau portique qui fait saillie au centre de cette demi-lune forme l'entrée d'une chapelle qui occupe le milieu du bâtiment. Cette chapelle, surmontée d'un dôme, autour de laquelle correspondent les principales salles destinées aux malades, renferme le mausolée du prince fondateur. Elle est ornée de colonnes de stuc, de statues et de beaux tableaux. La pharmacie est une des plus belles et des plus riches que je connaisse. L'hôpital des enfants trouvés, situé sur le bord de la Moskova, protégé par le canon du Kremlin, est sans contredit le plus vaste et le plus bel établissement de ce genre qu'il y ait en Europe. Il se compose de deux portions d'édifices. La première, où est la porte d'entrée, est destinée au logement du gouverneur, pris parmi les anciens généraux d'armée, à celui de l'administration, des officiers de santé, des bureaux et de toutes les personnes attachées au service de l'hospice. La deuxième forme un carré parfait. Au milieu de la cour, qui est très grande, est une fontaine à réservoir qui distribue l'eau de la rivière dans tout l'hôpital. Chacun des côtés se compose de quatre grands étages autour desquels règne un corridor régulier, peu large, assez spacieux cependant pour que l'air et les individus y circulent librement. Des salles occupent le reste de la longueur et toute la largeur de chaque aile du bâtiment. Dans chaque salle sont placés deux rangs de lits à rideaux. Leur grandeur est relative à celle des enfants. Le quartier des garçons est séparé de celui des filles. La plus grande propreté et le plus grand ordre règnent partout. À peine avions-nous pris possession de la ville et étions-nous parvenus, par nos efforts, à éteindre le feu que les Russes avaient allumé dans les plus beaux quartiers, que, par suite de deux causes majeures, l'incendie se renouvela d'une manière plus vive, se propagea rapidement d'une section de la ville à l'autre et embrasa toute la cité. La première de ces causes est justement rapportée à la volonté bien prononcée d'une certaine classe de Russes, que l'on dit être les individus détenus dans les prisons, dont les portes avaient été ouvertes au départ de l'armée. Ces misérables, excités soit par un ordre supérieur, soit par un mouvement spontané dans la vue sans doute d'exercer le pillage, se portaient aux yeux de tout le monde d'un palais à l'autre ou d'une maison à l'autre pour y mettre le feu. Les patrouilles françaises, quoique nombreuses et fréquentes, n'avaient pu les empêcher. J'ai vu prendre plusieurs de ces misérables sur le fait. On avait saisi dans leurs mains des mèches allumées et des matières combustibles. La peine de mort, appliquée à ceux qu'on prenait en flagrant délit, ne faisait nulle impression sur les autres, et l'incendie continua 3 jours et 3 nuits sans interruption. En vain, nos soldats coupèrent les maisons pour l'arrêter, la flamme franchissait bientôt les espaces et en un clin d'œil, les bâtiments ainsi isolés étaient embrasés. La deuxième cause devait être attribuée au vent impétueux de l'équinoxe, toujours très fort dans ces contrées, et à la faveur desquels le feu croissait et se déployait avec une activité extraordinaire. Il serait difficile, dans quelques circonstances que ce soit, d'avoir un tableau plus horrible que celui qui affligeait nos regards. Ce fut surtout pendant la nuit du 18 au 19 septembre, époque où l'incendie était au plus haut degré, que ses effets offraient un spectacle étonnant. Le temps était beau et sec, les vents n'ayant cessé de régner de l'est au nord ou du nord à l'est. Pendant cette nuit, dont l'image effrayante restera toujours gravée dans mon souvenir, toute la cité était embrasée. Des gerbes épaisses de flammes de couleurs variées s'élevaient de toutes parts jusqu'aux nues, couvraient en entier l'horizon, portant au loin une lumière éclatante et une chaleur brûlante. Ces gerbes de feu, projetées dans tous les sens et entraînées par la violence des vents, étaient accompagnées dans leur ascension et dans leur marche rapide par un sifflement épouvantable et par des détonations foudroyantes, résultat de la combustion des poudres, du salpêtre, des huiles, résines et eaux-de-vie, dont la plupart des maisons et des boutiques étaient remplies. Les plaques de tôle vernissées qui couvraient les bâtiments se détachaient brusquement par l'effet de la chaleur et allaient jaillir au loin. Des portions très considérables de poutres ou de solives de sapin enflammées, lancées à de très grandes distances, servaient à propager l'incendie jusqu'aux maisons que l'on croyait les moins exposées à cause de leur éloignement. L'épouvante et la terreur avaient frappé tout le monde. La garde, le quartier général et le chef de l'armée quittèrent le Kremlin et la cité et allèrent établir un camp à Petrovski, château de Pierre le Grand, sur la route de Pétersbourg. Je restai avec un très petit nombre de mes camarades dans une maison bâtie en pierre isolée et située au sommet du quartier franc près du Kremlin. Je pus facilement observer de là tous les phénomènes de cet épouvantable embrasement. Nous avions envoyé nos équipages au camp, étant toujours sur le qui-vive, pour parer aux événements ou pour les prévenir. Les hommes du bas-peuple qui étaient restés dans Moscou, pourchassés d'une maison à l'autre par l'incendie, jetaient des cris lamentables. Très jaloux de sauver ce qu'ils avaient de plus précieux, ils se chargeaient de ballots qu'ils avaient peine à porter et que souvent on les voyait abandonner pour se soustraire aux flammes. Les femmes, conduites par un sentiment d'humanité bien naturel, emportaient un ou deux enfants sur les épaules, traînaient les autres par la main, et, pour échapper à la mort qui les menaçait de toutes parts, couraient, les jupes retroussées, se réfugiaient dans les recoins des rues et des places. Mais l'activité du feu les forçait bientôt d'abandonner cet asile et de fuir précipitamment de tous côtés, sans pouvoir quelquefois sortir de cette espèce de labyrinthe où plusieurs d'entre elles trouvèrent une fin malheureuse. J'ai vu des vieillards dont la longue barbe avait été atteinte par les flammes, traînés sur de petits chariots par leurs propres enfants qui s'empressaient de les enlever de ce véritable tartare. Quant à nos soldats, tourmentés par la faim et la soif, ils bravaient tous les dangers pour ravir du fond des caves et boutiques embrasées les comestibles, les vins, les liqueurs ou autres objets plus ou moins utiles. On les voyait courir dans les rues, pêle-mêle avec les habitants désespérés, emportant tout ce qu'ils avaient pu arracher aux ravages de cet affreux incendie. Enfin, en 8 ou 10 jours, cette immense et superbe cité fut réduite en cendres, à l'exception du palais Kremlin, de quelques grandes maisons et de toutes les églises. Ces édifices se sont bâtis en pierre. Cette calamité jeta l'armée dans une grande consternation et nous présagea de plus grands malheurs. Nous crûmes tous ne pouvoir plus trouver ni subsistance, ni étoffe, ni autres objets nécessaires à l'habillement des troupes et dont nous avions le plus pressant besoin. Quelle idée plus sinistre pouvait se présenter à notre imagination? Cependant, le quartier général vint, après l'incendie, s'établir de nouveau au Kremlin et la garde se logea dans quelques maisons du quartier franc qui avaient été épargnées. Chacun reprit l'exercice de ses fonctions. On découvrit, à force de recherche, des magasins de farine, de viande, de poisson salé, d'huile, d'eau-de-vie, de vin et de liqueur. On en fit quelques distributions aux soldats, mais on voulut beaucoup trop épargner et emmagasiner, et cet excès de prévoyance, qui n'est quelquefois qu'un prétexte, conduisit à brûler par la suite ou à laisser dans ces magasins des denrées de tout genre, dont on aurait pu tirer les plus grands avantages et qui auraient même suffi aux besoins de l'armée, pendant plus de 6 mois, si l'on fut resté à Moscou. Il en fut ainsi principalement pour les étoffes et les fourrures qu'on aurait dû s'empresser de faire confectionner de manière à fournir à nos troupes tous les vêtements capables de les préserver le plus possible de la rigueur du froid auquel il fallait s'attendre. De leur côté, les soldats, qui ne songent jamais à l'avenir, loin de supplier pour leur intérêt à ce défaut de précaution, ne s'occupaient qu'à recueillir les vins, les liqueurs, les matières d'or et d'argent, et méprisaient tout le reste. Cette abondance inattendue qu'ils devaient à leurs infatigables recherches altéra la discipline de l'armée et la santé des hommes intempérants. Ce seul motif aurait dû nous faire presser notre départ pour la Pologne. Moscou devint pour nos troupes une nouvelle Capoue. les chefs de l'armée ennemie entretenaient les nôtres dans des espérances de paix. Les préliminaires devaient être signés d'un jour à l'autre. Cependant, des nuées de Cosaques couvraient nos cantonnements et nous enlevaient tous les jours un grand nombre de fourrageurs. Le général Kutuzov rassemblait les débris de son armée et la fortifiait des recrues qu'il recevait de toutes parts. Insensiblement et sous divers prétextes de pacification, ses avant-gardes se rapprochèrent des nôtres. Enfin, le terme des négociations était arrivé, et c'est au moment où l'ambassadeur français devait obtenir une première décision que le corps d'armée du prince Joachim fut enveloppé. Notre général ambassadeur put à peine franchir les obstacles qu'il rencontra pour se rendre à Moscou. Déjà, plusieurs portions de nos troupes et quelques pièces de canon avaient été enlevées. Néanmoins, les divers corps de cette avant-garde, d'abord dispersés, se rallient, rompent la colonne russe qui les cernait, prennent une position favorable et s'élancent à leur tour sur la cavalerie nombreuse de l'ennemi, qu'ils repoussent avec force en reprenant une partie des pièces d'artillerie et des soldats faits prisonniers dans la première attaque. Enfin, l'arrivée du général Lauriston et des blessés nous confirma, au quartier général, la reprise des hostilités. Des ordres sont aussitôt donnés pour le départ subit de l'armée, la générale se fait entendre, tous les corps se disposent à exécuter ce mouvement précipité. On se hâte de faire quelques provisions et l'on se met en marche dans la journée du 12 octobre. Dimanche 25. Sur le couronnement, etc., décret de Berlin et de Milan, grande cause de la haine des Anglais. Le temps s'est remis tout à fait au beau. L'empereur a déjeuné sous la tente, il nous y a tous fait appeler. La conversation a conduit à parler des cérémonies du couronnement. Il demandait des renseignements à l'un de nous qui y avait assisté et qui n'a pu les donner. Il les a demandés à un autre, mais celui-ci n'y avait pas été. « Où donc étiez-vous alors ? » lui a dit l'empereur. « Sire, à Paris. Mais comment ? Vous n'avez pas vu le couronnement ? Non, sire. » L'empereur, alors, le regardant de travers et saisissant son oreille, lui a dit « Vous seriez-vous avisé de faire l'aristocrate à ce point ? Mais, sire, mon heure n'était pas venue. Mais vous avez du moins vu le cortège. Ah, sire, si ma curiosité l'eût emporté, j'aurais couru du moins à ce qu'il y avait de plus digne, de plus précieux à voir, et je ne dois rien diminuer ici de mon mérite ou de mes torts. J'avais pourtant un billet... et j'aimais mieux en faire hommage à la dame anglaise dont je parlais dernièrement à votre majesté, laquelle, par parenthèse, y attrapa un rhume dont elle manqua mourir. Moi, je restais tranquillement chez moi. « Ah, c'est trop fort !» dit l'empereur, « le vilain aristocrate. Comment, vraiment, vous en étiez à ce point ?»« Hélas, oui, sire, » a repris l'accusé, « et pourtant me voici près de vous, et à Sainte-Hélène. » Et l'empereur, lâchant l'oreille, a souri. Après déjeuner, il m'est venu un capitaine de l'artillerie anglaise, ayant été 6 ans à l'Île-de-France. Il devait partir le lendemain pour l'Europe. Il m'a supplié, sous 1000 formes et 1000 manières, de lui obtenir le bonheur de voir l'empereur. Il eût, disait-il, donné tout au monde pour une telle faveur, sa reconnaissance serait sans bornes, etc. Nous avons causé fort longtemps. L'empereur faisait son tour en calèche. Je n'avais pas été de la course. À sa rentrée, j'ai été assez heureux pour remplir les vœux de l'officier anglais. Il a été reçu plus d'un quart d'heure par l'empereur. Il en était ivre de satisfaction, n'ignorant pas que cette faveur devenait chaque jour plus rare. Tout l'avait frappé, disait-il, au dernier degré dans Napoléon. Ses traits, son affabilité, le son de sa voix, ses expressions, les questions qu'il avait faites. C'était, me disait-il, un héros, un dieu. Le temps était délicieux. L'empereur a continué à se promener dans le jardin entouré de nous. Il discutait sur le non-succès de la négociation de l'un de nous, chose que l'empereur avait jugée des plus simples et qui s'était trouvée des plus délicates pour le négociateur. Il avait dû proposer un papier à des officiers anglais pour qu'ils le publiassent en Angleterre. L'Angleterre s'acquittait de sa censure avec sa logique ordinaire, avec l'esprit et le sel qui lui sont particuliers. Et toutefois, il en était fort contrarié. Sa conversation est devenue forte, il la poussait jusqu'à l'humeur, et c'était pour la première fois peut-être que le patient en éprouvait les marques. Enfin, a-t-il conclu, ce que vous proposiez là à d'autres, monsieur, après tout, vous l'eussiez accepté vous-même à leur place. Non, sire. Comment non? Eh bien, a-t-il ajouté, d'une manière réprobative, vous ne seriez pas mon ministre de la police. Et votre majesté aurait raison, a répliqué vivement celui-là, qui s'était ému à son tour. Je ne me sens aucune disposition pour un tel poste. Un instant avant le dîner, l'empereur, le voyant entrer dans le salon, a dit « Ah, voilà notre petit officier de police. Venez, approchez, mon petit officier de police. » Et il lui a pincé l'oreille. Bien que des heures se fussent écoulées depuis la conversation vive, l'empereur cela rappelait. Il savait celui qui en avait été l'objet très sensible, et il était visible qu'il voulait en effacer l'impression. Voilà des nuances caractéristiques. Et celles qui ressortent des objets les plus petits sont les plus naturelles, les plus sûres. Après le dîner, la conversation a conduit l'empereur à parcourir le sujet spécial de sa querelle maritime avec l'Angleterre. La prétention du blocus sur le papier, disait-il, lui valut mon fameux décret de Berlin. Le Conseil britannique, dans sa colère, lance ses arrêts, il établissait un octroi sur les mers. Riposté aussitôt par les célèbres décrets de Milan, qui dénationalisent tout pavillon qui se soumettrait aux actes anglais. Et c'est alors que la guerre devint en Angleterre vraiment personnelle. La rage contre moi saisit tous ceux qui tenaient au commerce. L'Angleterre s'indigna d'une lutte et d'une énergie qu'elle ne connaissait pas. Elle avait toujours trouvé ce qui m'avait devancé plus complaisant. L'empereur plus tard a développé les mesures par lesquelles il avait forcé les Américains à se battre contre les Anglais. Il avait trouvé le moyen, disait-il, d'attacher leurs intérêts à leurs droits, car c'était pour les premiers qu'on se bat, disait-il, beaucoup plus que pour les seconds. Aujourd'hui, l'empereur s'attendait, disait-il, à quelques tentatives prochaines des Anglais sur la souveraineté des mers, à quelque octroi universel, etc. C'est pour eux, disait-il, un des grands moyens d'acquitter leurs dettes, de sortir de l'abîme où ils se trouvent plongés, en un mot, de se tirer d'affaire. S'ils ont parmi eux un génie hardi, une tête forte, ils doivent entreprendre quelque chose de la sorte. Personne ne saurait s'y opposer, et ils peuvent présenter la chose avec une espèce de justice. Ils ont à faire valoir que c'est pour le salut de l'Europe qu'ils en sont arrivés là, qu'ils ont réussi, qu'on leur doit quelques récompenses. Et puis, il n'est plus en Europe de vaisseaux de guerre que les leurs. Ils règnent aujourd'hui de fait sur les mers. Il n'existe plus de droit public quand l'équilibre est rompu, etc., etc. Les Anglais peuvent tout aujourd'hui s'ils veulent se réduire à rentrer dans leur vaisseau, mais ils exposeront leur supériorité, compliqueront leurs affaires et perdront insensiblement jusqu'à la considération s'ils s'obstinent à conserver des soldats sur le continent. Lundi 26, relation de la campagne de Waterloo dictée par Napoléon. L'empereur est sorti de très grand matin, même avant 7 heures. Il n'a voulu faire lever aucun de nous. Le temps était fort beau, il s'est mis à travailler seul dans le jardin, sous la tente, où il nous a fait appeler tous pour déjeuner. Il y est demeuré jusqu'à 2 heures. À dîner, il a beaucoup parlé de notre situation dans l'île. Il ne voulait pas, disait-il, bouger de Longwood, ne se souciait d'aucune visite, mais il désirait que nous prissions quelques diversions, que nous cherchassions à nous égayer. Il nous aurait vu avec plaisir, disait-il, nous mouvoir et nous produire davantage, etc. L'empereur a fait lire ses premières dictées sur la bataille de Waterloo au général Gourgaud. Quelles pages, elles font mal. Les destinées de la France ont tenu à si peu de choses. Nota bene, la dernière rédaction a été publiée en Europe en 1820. On était venu à bout de la faire sortir furtivement de Sainte-Hélène en dépit de toute vigilance. Dès que cette relation de Waterloo parut dans le monde, personne ne se trompa sur son auteur. On s'est écrié « Napoléon seul pouvait la décrire de la sorte ». Et l'on assure que c'est précisément ainsi que s'est exprimé le généralissime, son antagoniste lui-même. Quel beau chapitre! Il serait impossible d'en essayer une analyse, il faut lire l'original. Toutefois, nous transcrivons littéralement ici les dernières pages, contenant en forme de résumé 9 observations de Napoléon sur les fautes qu'on lui a reprochées dans cette campagne. Ce sont des points qui demeureront classiques et nous avons pensé qu'on ne serait pas fâché de retrouver ici des objets qui deviennent, toutes les fois que l'occasion s'en présente, le sujet de vives et importantes discussions. Nous ferons précéder ces observations et toujours de la dictée de Napoléon du tableau des ressources qui restaient encore à la France après la perte de la bataille. La position de la France était critique après la bataille de Waterloo, mais non désespérée. Tout avait été préparé dans l'hypothèse qu'on échouât dans l'attaque de la Belgique. 70 000 hommes s'étaient ralliés le 27 entre Paris et Laon. 25 à 30 000, y compris les dépôts de la garde, étaient en marche de Paris et des dépôts. Le général Rapp, avec 25 000 hommes de troupes d'élite, devait être arrivé dans les premiers jours de juillet sur la Marne. Toutes les pertes du matériel de l'artillerie étaient réparées. Paris seul contenait 500 pièces de canons de campagne et on n'en avait perdu que 170. Ainsi, une armée de 120 000 hommes, égale à celle qui avait passé la Sambre le 15, ayant un train d'artillerie de 350 bouches à feu, couvrait Paris au 1er juillet. Cette capitale avait, indépendamment de cela, pour sa défense, 36 000 hommes de garde nationale, 30 000 tirailleurs, 6 000 canonniers, 600 bouches à feu en batterie, des retranchements formidables sur la rive droite de la Seine, et en peu de jours, ceux de la rive gauche eussent été complètement terminés. Cependant, les armées anglo-hollandaises et prusso-saxonnes, affaiblies de plus de 80 000 hommes, n'étant plus que de 140 000, ne pouvaient dépasser la Somme avec plus de 90 000 hommes. Elles y attendraient la coopération des armées autrichiennes et russes qui ne pouvaient être avant le 15 juillet sur la Marne. Paris avait donc 25 jours pour préparer sa défense, achever son armement, ses fortifications, ses approvisionnements et attirer des troupes de tous les points de France. Au 15 juillet même, il n'y aurait que 30 ou 40 000 hommes arrivés sur le Rhin. La masse des armées russes et autrichiennes ne pouvait entrer en action que plus tard. Ni les armes, ni les munitions, ni les officiers ne manquaient dans la capitale. On pouvait porter facilement les tirailleurs à 80 000 hommes et augmenter l'artillerie de campagne jusqu'à 600 bouches à feu. Le maréchal Suchet, réuni au général Lecourbe, aurait à la même époque plus de 30 000 hommes devant Lyon, indépendamment de la garnison de cette ville qui serait bien armée, bien approvisionnée et bien retranchée. La défense de toutes les places fortes était assurée. Elles étaient commandées par des officiers de choix et gardées par des troupes fidèles. Tout pouvait se réparer, mais il fallait du caractère, de l'énergie, de la fermeté de la part des officiers, du gouvernement, des chambres, de la nation tout entière. Il fallait qu'elle fût animée par le sentiment de l'honneur, de la gloire, de l'indépendance nationale, qu'elle fixât les yeux sur Rome après la bataille de Cannes et non sur Carthage après Zama. Si la France s'élevait à cette hauteur, elle était invincible. Son peuple contenait plus d'éléments militaires qu'aucun autre peuple du monde. Le matériel de guerre était en abondance et pouvait suffire à tous les besoins. Le 21 juin, le maréchal Blücher et le duc de Wellington entrèrent sur deux colonnes sur le territoire français. Le 22, le feu prit au magasin à poudre d'Avesnes, la place se rendit. Le 24, les Prussiens entrèrent dans Guise et le duc de Wellington à Cambrai. Le 26, il était à Péronne. Pendant tout ce temps, les places de première, deuxième et troisième ligne de la Flandre étaient investies. Cependant, ces deux généraux apprirent le 25 l'abdication de l'empereur qui avait eu lieu le 22. L'insurrection des chambres, le découragement que ces circonstances jetèrent dans l'armée et les espérances qu'en concevaient les ennemis intérieurs. Dès lors, ils ne songèrent plus qu'à marcher sur la capitale, sous les murs de laquelle ils arrivèrent les derniers jours de juin, avec moins de 90 000 hommes. Démarche qui leur aurait été funeste et eût entraîné leur ruine totale s'ils l'eussent hasardé devant Napoléon. Mais ce prince avait abdiqué. Les troupes de ligne qui se trouvaient à Paris, plus de 6 000 hommes des dépôts de la garde, les tirailleurs de la garde nationale, choisis dans le peuple de cette grande capitale, lui étaient tout dévoués. Ils pouvaient foudroyer les ennemis intérieurs. Mais pour développer les motifs qui ont réglé sa conduite dans cette occasion si importante et qui a eu de si funestes conséquences pour lui et la France, il faut reprendre le récit plus loin, etc., etc. Première observation. On a reproché à l'empereur, premièrement, de s'être démis de la dictature au moment où la France avait le plus grand besoin d'un dictateur, deuxièmement, d'avoir changé les constitutions de l'Empire dans un moment où il ne fallait songer qu'à le préserver de l'invasion, troisièmement, d'avoir souffert qu'on alarmât les Vendéens, qui d'abord avaient refusé de prendre les armes contre le régime impérial, quatrièmement, d'avoir réuni les chambres lorsqu'il suffisait de réunir les armées, cinquièmement, d'avoir abdiqué et laissé la France à la merci d'une assemblée divisée et sans expérience. Car enfin, s'il est vrai qu'il fut impossible de sauver la patrie dans la confiance de la nation, il ne l'était pas moins que la nation, dans les circonstances critiques, ne pouvait sauver ni son honneur, ni son indépendance sans Napoléon. Nous ne ferons aucune réflexion sur des matières qui seront approfondies et longuement traitées dans le livre X. L'art avec lequel les mouvements des divers corps d'armée ont été dérobés à la connaissance de l'ennemi au début de la campagne ne saurait être trop remarqué. Le maréchal Blücher et le duc de Wellington ont été surpris. Ils n'ont rien vu, rien su de tous les mouvements qui s'opéraient près de leurs avant-postes. Deuxième observation. Pour attaquer les deux armées ennemies, les Français pouvaient déborder leur droite, leur gauche et percer leur centre. Dans le premier cas, ils déboucheraient par l'île et rencontreraient l'armée anglo-hollandaise. Dans le second, ils déboucheraient par Givet et Charlemont et rencontreraient l'armée prusso-saxonne. Ces deux armées restaient réunies puisqu'elles seraient pressées l'une sur l'autre, de la droite sur la gauche et de la gauche sur la droite. L'empereur adopta le parti de couvrir ses mouvements par la Sambre et de percer la ligne des deux armées à Charleroi, point de leur jonction, manœuvrant avec rapidité et habileté. Il trouva ainsi, dans les secrets de l'art, des moyens supplémentaires qui lui eurent un lieu des 100 000 hommes qui lui manquaient. Ce plan fut conçu et exécuté avec audace et sagesse. Troisième observation. Le caractère de plusieurs généraux avait été détrempé par les événements de 1814. Ils avaient perdu quelque chose de leur audace, de cette résolution et de cette confiance qui leur avait valu tant de gloire et avait tant contribué au succès des campagnes passées. Premièrement, le 15 juin, le troisième corps devait prendre les armes à 3 heures du matin et arriver devant Charleroi à 10 heures. Il n'arriva qu'à 3 heures après-midi. Deuxièmement, le même jour, l'attaque des bois en avant de Fleurus, qui avait été ordonnée pour 4 heures après-midi, n'eut lieu qu'à 7 heures. La nuit survint avant qu'on pût entrer à Fleurus, où le projet du chef avait été de placer son quartier général ce même jour. Cette perte de 7 heures était bien fâcheuse au début d'une campagne. Troisièmement, Ney reçut l'ordre de se porter le 16 avec 43 000 hommes qui composaient la gauche qu'il commandait en avant des quatre bras, d'y prendre position à la pointe du jour et même de s'y retrancher. Il hésita, perdit 8 heures. Le prince d'Orange, avec 9 000 hommes seulement, conserva le 16 jusqu'à 3 heures après-midi cette importante position. Lorsqu'enfin le maréchal reçut à midi l'ordre daté de Fleurus et qu'il vit que l'empereur allait en venir aux mains avec les Prussiens, il se porta sur les quatre bras, mais seulement avec la moitié de son monde et laissa l'autre moitié pour appuyer sa retraite à 2 lieues derrière. Il l'oublia jusqu'à 6 heures du soir, où il sentit le besoin pour sa propre défense. Dans les autres campagnes, ce général eût occupé à 6 heures du matin la position en avant des quatre bras, eût défait et pris toute la division belge, et eût, ou tourné l'armée prussienne, en faisant par la chaussée de Namur un détachement qui fût tombé sur les derrières de la ligne de bataille, ou en se portant avec rapidité sur la chaussée de Genappe, il eût surpris en marche et détruit la division de Brunswick et la 5e division anglaise qui venait de Bruxelles, et de là eût marché à la rencontre des 1ère et 3e divisions anglaises qui arrivaient par la chaussée de Nivelles, l'une et l'autre sans cavalerie ni artillerie et harassées de fatigue. Toujours le premier dans le feu, Ney oubliait les troupes qui n'étaient pas sous ses yeux. La bravoure que doit montrer un général en chef est différente de celle que doit avoir un général de division, comme celle-ci ne doit pas être celle d'un capitaine de grenadier. Quatrièmement, l'avant-garde de l'armée française n'arriva le 17 devant Waterloo qu'à 6 heures du soir. Sans de fâcheuses hésitations, elle y fut arrivée à 3 heures. L'empereur en parut fort contrarié. Il dit, en montrant le soleil, que ne donnerais-je pas pour avoir aujourd'hui le pouvoir de Josué et retarder sa marche de 2 heures. Quatrième observation. Jamais le soldat français n'a montré plus de courage, de bonne volonté et d'enthousiasme. Il était plein du sentiment de sa supériorité sur tous les soldats de l'Europe. Sa confiance dans l'empereur était tout entière et peut-être encore accrue, mais il était ombrageux et méfiant envers ses autres chefs. Les trahisons de 1814 étaient toujours présentes à son esprit. Tout mouvement qu'il ne comprenait pas l'inquiétait, il se croyait trahi. Au moment où les premiers coups de canon se tiraient près de Saint-Amand, un vieux caporal s'approcha de l'empereur et lui dit « Sire, méfiez-vous du maréchal Soult, soyez certain qu'il nous trahit. »« Sois tranquille, lui répond ce prince, j'en réponds comme de moi. » Au milieu de la bataille, un officier fit le rapport au maréchal Soult que le général Vandamme était passé à l'ennemi, que ses soldats demandaient à grands cris qu'on en instruisît l'empereur. Sur la fin de la bataille, un dragon, le sabre tout dégouttant de sang, accourut, criant « Sire, venez vite à la division, le général Dénin harangue ses dragons pour passer à l'ennemi. » « L'as-tu entendu ?»« Non, sire, mais un officier qui vous cherche l'a vu et m'a chargé de vous le dire. » Pendant ce temps, le brave général Dénin recevait un boulet de canon qui lui emportait une cuisse après avoir repoussé une charge ennemie. Le 14 au soir, le lieutenant-général Bourmont, le colonel C et l'officier de l'état-major V avaient déserté du 4e et passé à l'ennemi. Leurs noms seront en exécration tant que le peuple français formera une nation. Cette désertion avait fort augmenté l'inquiétude du soldat. Il paraît à peu près constant qu'on a crié « sauf qui peut » à la 4e division du 1er corps le soir de la bataille de Waterloo à l'attaque du village de La Haye par le maréchal Blücher. Ce village n'a pas été défendu comme il devait l'être. Il est également probable que plusieurs officiers, porteurs d'ordre, ont disparu. Mais si quelques officiers ont déserté, pas un seul soldat ne s'est rendu coupable de ce crime. Plusieurs se tuèrent sur le champ de bataille où ils étaient restés blessés lorsqu'ils apprirent la déroute de l'armée. Cinquième observation. Dans la journée du 17, l'armée française se trouva partagée en 3 parties. 69 000 hommes, sous les ordres de l'empereur, marchèrent sur Bruxelles par la chaussée de Charleroi. 34 000 hommes, sous les ordres du maréchal Grouchy, se dirigèrent sur cette capitale par la chaussée de Wavre à la suite des Prussiens. 7 à 8 000 hommes restèrent sur le champ de bataille de Ligny, savoir 3 000 hommes de la division Girard pour porter secours aux blessés et former, dans tous les cas imprévus, une réserve aux quatre bras. 4 à 5 000 hommes formant les parcs de réserve restèrent à Fleurus et à Charleroi. Les 34 000 hommes du maréchal Grouchy, ayant 108 pièces de canon, étaient suffisants pour culbuter l'arrière-garde prussienne dans toutes les positions qu'elle prendrait, presser la retraite de l'armée vaincue et la contenir. C'était un beau résultat de la victoire de Ligny de pouvoir ainsi opposer 34 000 hommes à une armée qui avait été de 120 000 hommes. Les 69 000 hommes sous les ordres de l'empereur étaient suffisants pour battre l'armée anglo-hollandaise de 90 000 hommes. La disproportion qui existait le 15 entre les deux masses belligérantes, qui étaient alors dans un rapport d'un à deux, était bien changée. Il n'était plus que dans le rapport de 3 à 4. Si l'armée anglo-hollandaise avait battu les 69 000 hommes qui marchaient contre elle, on eût pu reprocher à Napoléon d'avoir mal calculé. Mais il est constant, même de l'aveu des ennemis, que sans l'arrivée du général Blücher, l'armée anglo-saxonne aurait perdu son champ de bataille entre 8 et 9 heures du soir. Sans l'arrivée du maréchal Blücher à 8 heures du soir, avec ses premiers et deuxièmes corps, la marche sur Bruxelles, sur 2 colonnes, pendant la journée du 17, avait plusieurs avantages. La gauche poussait et contenait l'armée anglo-hollandaise, la droite, sous les ordres du maréchal Grouchy, poursuivait et contenait l'armée prusso-saxonne et, le soir, toute l'armée française devait se trouver réunie sur une ligne de 5 petites lieues de Mont-Saint-Jean à Wavre, ayant ses avant-postes au bord de la forêt. Mais la faute que fit le général Grouchy de s'arrêter le 17 à Gembloux, n'ayant fait dans la journée que 2 petites lieues au lieu de continuer jusque vis-à-vis de Wavre, c'est-à-dire d'en faire encore 3, fut aggravée et rendue irréparable par celle qu'il fit le lendemain 18 en perdant 12 heures et n'arrivant qu'à 4 heures après-midi devant Wavre au lieu d'y arriver à 6 heures du matin. Premièrement, chargé de poursuivre le maréchal Blücher, Grouchy le perdit de vue pendant 24 heures, depuis le 17 à 4 heures de l'après-midi jusqu'au 18 à 4 heures après-midi. Deuxièmement, le mouvement de la cavalerie sur le plateau, pendant que l'attaque du général Bülow n'était pas encore repoussée, fut un accident fâcheux. L'intention du chef était d'ordonner ce mouvement, mais 1 heure plus tard, et de le faire soutenir par les 16 bataillons d'infanterie de la garde et 100 pièces de canon. Troisièmement, les grenadiers à cheval et les dragons de la garde, que commandait le général Guillot, s'engagèrent sans ordre. Ainsi, à 5 heures de l'après-midi, l'armée se trouva sans avoir une réserve de cavalerie. Si à 8h30 cette réserve eût existé, l'orage qui bouleversa le champ de bataille eût été conjuré, les charges de la cavalerie ennemie repoussées, les 2 armées eussent couché sur le champ de bataille, malgré l'arrivée successive du général Bülow et du maréchal Blücher. L'avantage eût encore été pour l'armée française, car les 34 000 hommes du maréchal Grouchy, ayant 108 pièces de canon, étaient frais et bivouaquèrent sur le champ de bataille. Les 2 armées ennemies se fussent trouvées dans la nuit couvertes par la forêt de Soigne. L'usage constant dans toutes les batailles était que la division de grenadiers et dragons de la garde ne perdit pas de vue l'empereur et ne chargea qu'en vertu d'un ordre donné verbalement par ce prince au général qui l'a commandé. Le maréchal Mortier, qui commandait en chef la garde, quitta ce commandement le 15 à Beaumont, comme les hostilités commençaient. Il ne fut pas remplacé, ce qui eut plusieurs inconvénients. 6e observation. Premièrement, l'armée française manœuvra sur la rive droite de la Sambre le 13 et le 14. Elle campa la nuit du 14 au 15 à 1/2 lieue des avant-postes prussiens, et cependant le maréchal Blücher n'eut connaissance de rien, et lorsque le 15, dans la matinée, il apprit à son quartier général de Namur que l'empereur entrait à Charleroi, l'armée prusso-saxonne était encore cantonnée sur une étendue de pays de 30 lieues. Il lui fallait 2 jours pour se réunir. Il eût dû, dès le 15 mai, porter son quartier général à Fleurus, concentrer les cantonnements de son armée dans un rayon de 8 lieues, tenant des avant-gardes sur les débouchés de la Meuse et de la Sambre. Son armée eût pu alors être alignée le 15 à midi, y attendre l'attaque de l'armée française, ou, dans la soirée du 15, marcher contre elle pour la jeter dans la Sambre. Deuxièmement, cependant, quoique surpris, le maréchal Blücher persista dans le projet de réunir son armée sur les hauteurs de Ligny derrière Fleurus, bravant la chance d'y être attaqué avant que son armée n'y fût arrivée. Le 16 au matin, il n'avait encore réuni que 2 corps d'armée, et déjà l'armée française était à Fleurus. Le 3e corps rejoignit dans la journée, mais le 4e, que commandait le général Bülow, ne put arriver à la bataille. Le maréchal Blücher eût dû, aussitôt qu'il sut les Français à Charleroi, c'est-à-dire dans la soirée du 15, donner pour point de rassemblement à son armée, non Fleurus, non Ligny, qui se trouvait déjà sous le canon de son ennemi, mais Wavre, où les Français ne pouvaient arriver que le 17. Il eut eu de plus toute la journée du 16 et la nuit du 16 au 17 pour opérer le rassemblement total de son armée. Troisièmement, après avoir perdu la bataille de Ligny, le général prussien, au lieu de faire sa retraite sur Wavre, eût dû l'opérer sur l'armée du duc de Wellington, soit sur les 4 bras, puisque celui-ci s'y était maintenu, soit sur Waterloo. Toute la retraite du maréchal Blücher dans la matinée du 17 fut à contresens, puisque les 2 armées, qui n'étaient qu'à 3 000 toises l'une de l'autre pendant la soirée du 16, ayant pour communication une belle chaussée, ce qui les pouvait faire considérer comme réunies, se trouvèrent le soir du 17 éloignées de plus de 10 000 toises et séparées par des défilés et chemins impraticables. le général prussien a violé les trois grandes règles de la guerre. Premièrement, tenir ses cantonnements rapprochés. Deuxièmement, donner pour point de rassemblement un lieu où ils puissent tous arriver avant l'ennemi. Troisièmement, opérer sa retraite sur ses renforts. Septième observation. Premièrement, le duc de Wellington a été surpris dans ses cantonnements. Il eût dû, le 15 mai, les concentrer à 8 lieues autour de Bruxelles, tenant des avant-gardes sur des débouchés de Flandre. L'armée française manœuvrait depuis 3 jours à portée de ses avant-postes. Elle avait, depuis 24 heures, commencé les hostilités. Son quartier général était depuis 12 heures à Charleroi, que le général anglais ignorait encore tout à Bruxelles, et tous les cantonnements de son armée étaient encore en pleine sécurité, occupant un terrain de plus de 20 lieues. Deuxièmement, le prince de Saxe-Weimar, qui faisait partie de l'armée anglo-hollandaise, était le 15 à 4 heures du soir en position en avant de Frasnes et savait que l'armée française était à Charleroi. S'il eût envoyé directement un aide de camp à Bruxelles, il y serait arrivé à 6 heures du soir. Et cependant, ce ne fut qu'à 11 heures du soir que le duc de Wellington fut instruit que l'armée française était à Charleroi. Il perdit ainsi 5 heures dans une circonstance et contre un homme où la perte d'une seule heure était d'une grande importance. Troisièmement, l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie de cette armée étaient cantonnées séparément, de sorte que l'infanterie se trouva engagée aux 4 bras, sans cavalerie ni artillerie, ce qui lui fit éprouver une grande perte, puisqu'elle fut obligée de se tenir en colonne serrée pour faire face aux charges des cuirassiers et sous la mitraille de 50 bouches à feu. Ses braves étaient ainsi à la boucherie, sans cavalerie pour les protéger et sans artillerie pour les venger. Comme les trois armées ne peuvent pas se passer un moment l'une de l'autre, elles doivent toujours être cantonnées et placées de manière à pouvoir toujours s'assister. Quatrièmement, le général anglais, quoique surpris, donna pour point de réunion à son armée les 4 bras, depuis 24 heures au pouvoir des Français. Il exposait ses troupes à être défaites partiellement et à mesure de leur arrivée. Le danger qu'il leur faisait courir était bien plus considérable encore, puisqu'il les faisait arriver sans artillerie et sans cavalerie. Il livrait son infanterie, morcelée et sans l'assistance des 2 autres armées, à son ennemi. Son point de rassemblement devait être à Waterloo. Il aurait eu alors la journée du 16 et la nuit du 16 au 17, ce qui était suffisant pour y réunir toute son armée, infanterie, cavalerie, artillerie. Les Français ne pouvaient y arriver que le 17 et eussent trouvé toute son armée en position. Huitième observation. Premièrement, le général anglais a livré le 18 la bataille de Waterloo. Ce parti était contraire aux intérêts de sa nation. Au plan général de guerre adopté par les Alliés, il violait toutes les règles de la guerre. Il n'était pas de l'intérêt de l'Angleterre, qui a besoin de tant d'hommes pour recruter ses armées des Indes, de ses colonies d'Amérique et de ses vastes établissements, de s'exposer de gaieté de cœur à une lutte meurtrière qui pouvait lui faire perdre la seule armée qu'elle eût et lui coûter tout au moins le plus pur de son sang. Le plan de guerre des Alliés consistait à agir en masse et à ne s'engager dans aucune affaire partielle. Rien n'était plus contraire à leur intérêt et à leur plan que d'exposer le succès de leur cause dans une bataille chanceuse, à peu près à force égale, où toute probabilité était contre eux. Et si l'armée anglo-hollandaise eût été détruite à Waterloo, qu'eût servi aux Alliés ce grand nombre d'armées qui se disposaient à franchir le Rhin, les Alpes et les Pyrénées? Deuxièmement, le général anglais, en prenant la résolution de recevoir la bataille à Waterloo, ne la fondait que sur la coopération des Prussiens. Mais cette coopération ne pouvait avoir lieu que dans l'après-midi. Il restait donc exposé seul depuis 4 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, c'est-à-dire pendant 13 heures. Une bataille ne dure ordinairement plus de 6 heures. Cette coopération était donc illusoire. Mais pour compter sur la coopération des Prussiens, il supposait donc que l'armée française était tout entière vis-à-vis de lui, et si cela était, il prétendait donc pendant 13 heures, avec 90 000 hommes de troupes des diverses nations, défendre son champ de bataille contre une armée de 104 000 Français. Ce calcul était évidemment faux. Il ne se fut pas maintenu 3 heures. Tout aurait été décidé à 8 heures du matin et les Prussiens ne seraient arrivés que pour être pris à revers. Dans une même journée, les deux armées eussent été détruites. S'il comptait qu'une partie de l'armée française aurait, conformément aux règles de la guerre, suivi l'armée prussienne, il devait dès lors lui être évident qu'il n'en aurait aucune assistance et que les Prussiens, battus à Ligny, ayant perdu 25 à 30 000 hommes sur le champ de bataille, en ayant eu 20 000 d'éparpillés, poursuivis par 35 ou 40 000 Français victorieux, ne se seraient pas dégarnis et se seraient crus à peine suffisants pour se maintenir. Dans ce cas, l'armée anglo-hollandaise aurait dû seule soutenir l'effort de 69 000 Français pendant toute la journée du 18. Et il n'est pas d'anglais qui ne convienne que le résultat de cette lutte n'était pas douteux et que leur armée n'était pas constituée de manière à supporter le choc de l'armée impériale pendant 4 heures. Pendant toute la nuit du 17 au 18, le temps a été horrible, ce qui a rendu les terres impraticables jusqu'à 9 heures du matin. Cette perte de 6 heures depuis la pointe du jour a été tout à l'avantage de l'ennemi. Mais son général pouvait-il faire dépendre le sort d'une pareille lutte du temps qu'il faisait dans la nuit du 17 au 18? Le maréchal Grouchy, avec 34 000 hommes et 108 pièces de canon, a trouvé le secret, qui paraissait introuvable, de n'être dans la journée du 18 ni sur le champ de bataille de Mont-Saint-Jean, ni sur Wavre. Mais le général anglais avait-il l'assurance de ce maréchal qu'il se fourvoierait d'une si étrange manière? La conduite du maréchal Grouchy était aussi imprévoyable que si, sur sa route, son armée eût éprouvé un tremblement de terre qui l'eût englouti. Récapitulons. Si le maréchal Grouchy eût été sur le champ de bataille de Mont-Saint-Jean, comme l'ont cru le général anglais et le général prussien pendant toute la nuit du 17 au 18 et toute la matinée du 18, et que le temps eût permis à l'armée française de se ranger en bataille à 4 heures du matin, avant 7 heures, l'armée anglo-hollandaise eût été écharpée, éparpillée, elle eût tout perdu. Et si le temps n'eût permis à l'armée française de prendre son ordre de bataille qu'à 10 heures, à 1 heure après-midi, l'armée anglo-hollandaise eût fini ses destins. Les débris en eussent été rejetés au-delà de la forêt ou dans la direction de Hal. Et l'on eût eu tout le temps dans la soirée d'aller à la rencontre du maréchal Blücher et de lui faire éprouver un pareil sort. Si le maréchal Grouchy eût campé devant Wavre la nuit du 17 au 18, l'armée prussienne n'eût fait aucun détachement pour sauver l'armée anglaise et celle-ci eût été complètement battue par les 69 000 Français qui lui étaient opposés. Troisièmement, la position de Mont-Saint-Jean était mal choisie. La première condition d'un champ de bataille est de n'avoir pas de défilé sur ses arrières. Pendant la bataille, le général anglais ne sut pas tirer parti de sa nombreuse cavalerie, il ne jugea pas qu'il devait être ou serait attaqué par sa gauche. Il crut qu'il le serait par sa droite. Malgré la diversion opérée en sa faveur par les 30 000 Prussiens du général Bülow, il eut 2 fois opéré sa retraite dans la journée, si cela lui eût été possible. Ainsi, par le fait, étrange bizarrerie des événements humains, le mauvais choix de son champ de bataille, qui rendait toute retraite impossible, a été la cause de son succès. Neuvième observation. On demandera que devait donc faire le général anglais après la bataille de Ligny et le combat des 4 bras. La postérité n'aura pas 2 opinions. Il devait traverser, dans la nuit du 17 au 18, la forêt de Soignes sur la chaussée de Charleroi. L'armée prussienne la devait également traverser sur la chaussée de Wavre. les deux armées se réunirent à la pointe du jour sur Bruxelles, laisser des arrière-gardes pour défendre la forêt, gagner quelques jours pour donner le temps aux Prussiens, dispersés par la bataille de Ligny, de rejoindre leur armée, se renforcer de 14 régiments anglais qui étaient en garnison dans les places fortes de la Belgique, où ils venaient de débarquer à Ostende de retour d'Amérique, et laisser manœuvrer l'empereur des Français comme il aurait voulu. Aurait-il, avec une armée de 100 000 hommes, traversé la forêt de Soignes pour attaquer au débouché des deux armées réunies, fortes de plus de 200 000 hommes et en position? C'était certainement tout ce qui pouvait arriver de plus avantageux aux alliés. Se serait-il contenté de prendre lui-même position? Son inaction ne pouvait pas être longue, puisque 300 000 Russes, Autrichiens, Bavarois, etc. étaient arrivés sur le Rhin. Il serait dans peu de semaines sur la Marne, ce qui l'obligerait à accourir au secours de la capitale. C'est alors que l'armée anglo-prussienne devait marcher et se joindre aux alliés sous Paris. Elle n'aurait couru aucune chance, n'aurait éprouvé aucune perte, aurait agi conformément aux intérêts de la nation anglaise, au plan général de la guerre adopté par les alliés et aux règles de l'art de la guerre. Du 15 au 18, le duc de Wellington a constamment manœuvré comme l'a désiré son ennemi. Il n'a rien fait de ce que celui-ci craignait qu'il fît. L'infanterie anglaise a été ferme et solide, la cavalerie pouvait mieux faire. L'armée anglo-hollandaise a été deux fois sauvée dans la journée par les Prussiens. La première fois avant 3 heures, par l'arrivée du général Bülow avec 30 000 hommes, et la deuxième fois par l'arrivée du général Bucher avec 31 000 hommes. Dans cette journée, 69 000 Français ont battu 120 000 hommes. La victoire leur a été arrachée entre 8 et 9 heures, mais par 150 000 hommes. Qu'on se figure la contenance du peuple de Londres au moment où il aurait appris la catastrophe de son armée et que l'on avait prodigué le plus pur de son sang pour soutenir la cause des rois contre celle des peuples, des privilégiés contre l'égalité, des oligarques contre les libéraux, des principes de la Sainte Alliance contre ceux de la souveraineté du peuple. Mardi 27, projet de nouvelle défense politique de Napoléon par lui-même. J'ai été joindre l'empereur sur les 4 heures. Il avait travaillé toute la matinée. Le vent était très fort. Il n'a pas voulu faire le tour en calèche. Il s'est promené longtemps dans la grande allée du bois. Nous y étions tous. Il plaisantait beaucoup de la bande qui l'agaçait fort, prétendant qu'il boudait et l'accusait d'être trop souvent mécontent et de mauvaise humeur, etc. L'empereur, au sortir de la table, revenant sur sa protestation récente contre le traité du 2 août et s'abîmant sur son contenu, disait, en marchant à grands pas dans le salon, qu'il allait en tracer un autre sur un cadre bien autrement vaste et important, contre le bill même de la législature britannique. Il prouverait, disait-il, que ce bill n'était pas une loi, mais une violation de toutes les lois. Lui, Napoléon, y était proscrit et n'était point jugé. Le Parlement d'Angleterre avait fait ce qu'il croyait utile et non pas ce qui était juste. Il avait imité Thémistocle sans vouloir écouter Aristide. De là, l'empereur se mettait en jugement devant tous les peuples de l'Europe et chacun d'eux l'absolvait successivement. Il a passé en revue tous les actes de son administration et les a tous justifiés. Les Français et les Italiens, a-t-il dit, gémissent en mon absence. J'emporte la reconnaissance des Polonais et jusqu'au regret tardif et amer des Espagnols même, etc. L'Europe pleurera bientôt la perte de l'équilibre auquel mon empire français était absolument nécessaire. Elle est dans le plus grand danger. Elle peut être à chaque instant inondée de Cosaques et de Tartares. Et vous, Anglais, a-t-il dit en finissant, vous, Anglais, vous pleurerez votre victoire de Waterloo. On amènera les choses à ce que la postérité, les gens instruits, les vrais hommes d'État, les vrais hommes de bien, regretteront amèrement que je n'ai pas réussi dans toutes mes entreprises. L'empereur a eu des moments sublimes. Je ne le suivrai point dans ses développements. Il a promis de les dicter et a dit en avoir déjà arrêté le cadre et les bases en 14 paragraphes. Mercredi 28, Catinat, Turenne, Condé, de la plus belle bataille de l'empereur, des meilleures troupes, etc. L'empereur n'est sorti que sur les 4 heures. Il venait de passer 3 heures dans son bain. Le temps était fort aigre, il s'est contenté de quelques tours dans le jardin. Il venait de faire écrire au gouverneur qu'il ne recevrait désormais personne, à moins qu'on admît à longue route sur les passes du grand maréchal, comme au temps de l'amiral Cockburn. Avant de se mettre aux échecs, l'empereur a trouvé sous sa main un volume de Fénelon. C'était la direction de conscience d'un roi. Il nous en a lu bon nombre d'articles, les sabrant tout d'abord avec beaucoup d'esprit et de gaieté. Enfin, il a jeté le livre, disant que le nom d'un auteur n'avait jamais influé sur son opinion, qu'il avait toujours jugé les ouvrages sur ce qui lui faisait éprouver, louant volontiers, censurant de même, et qu'ici, en dépit du nom de Fénelon, il n'hésitait pas à prononcer que c'était autant de rhapsodie, et vraiment, il eût été difficile de le contredire. Après dîner, l'empereur parlait de l'ancienne marine, de M. de Grasse, de sa défaite du 12 avril. Il a voulu avoir quelques détails, il a demandé le dictionnaire des sièges et batailles. L'empereur l'a parcouru, il lui a fourni une foule d'observations. Katina, pour son malheur, s'est trouvée sous sa main. Il l'a rabaissée infiniment à nos yeux. Il l'avait trouvée, disait-on, fort au-dessous de sa réputation, à l'inspection des lieux où il avait opéré en Italie et à la lecture de sa correspondance avec Louvois. Sorti du tiers-état, observait-il, et du corps des avocats, avec des vertus douces, des mœurs, de la probité, affectant la pratique de l'égalité, établie à Saint-Gratien, aux portes de Paris, il était devenu l'affection des gens de lettres de la capitale, des philosophes du jour, qu'il avait beaucoup trop exalté. Il n'était nullement comparable à Vendôme, prononçait-il. L'empereur disait qu'il avait cherché à étudier de même Turenne et Condé, soupçonnant aussi de l'exagération, mais que là, il avait fallu se rendre au mérite. Il avait même observé que, dans Turenne, l'audace avait cru chez lui avec l'expérience. Il en montrait plus en vieillissant qu'à son début. C'était peut-être le contraire chez Condé, qui en avait tant déployé en entrant dans la carrière. Et au sujet de Turenne, de Condé et d'autres grands hommes, je ferai observer qu'il est assez bizarre que le hasard ne m'ait jamais laissé entendre le nom du grand Frédéric dans la bouche de Napoléon. Et toutefois, la grosse montre ou espèce de réveil matin de ce prince, emporté à Sainte-Hélène et placé à la cheminée de l'empereur, l'empressement avec lequel Napoléon, à poste d'âme, s'élança sur l'épée du grand Frédéric en s'écriant « Que d'autres saisissent d'autres dépouilles, voici pour moi qui est supérieur à tous les millions ». Enfin, la contemplation longue et silencieuse de Napoléon au tombeau de Frédéric prouve assez à quel haut rang ce prince était dans l'esprit de l'empereur et combien il avait dû remuer son âme. Dans le dictionnaire des sièges et batailles que feuilletait l'empereur, il trouvait son nom à chaque page, mais entouré d'anecdotes tout à fait fausses et défigurées, ce qui le portait à se récrier sur toute la fourmilière des petits écrivains et les indignes abus de la plume. La littérature, disait-il, devenait une nourriture du peuple lorsqu'elle eût dû demeurer celle des gens délicats. On me fait, par exemple, à Arcole, durant la nuit, prendre le poste d'une sentinelle endormie. Cette idée est sans doute d'un bourgeois, d'un avocat peut-être, mais sûrement pas celle d'un militaire. L'auteur me veut du bien, sans doute, et il n'imagine rien de plus beau dans le monde que ce qu'il me fait faire. Il a certainement écrit cela pour me faire honneur. Mais il ignorait que je n'étais guère capable d'un tel acte. J'étais trop fatigué pour cela. Il est à croire que je m'étais endormi avant le soldat dont il parle. On a alors compté 50 à 60 grandes batailles données par l'empereur. Quelqu'un ayant demandé quelle était la plus belle, il disait qu'il était difficile de répondre, qu'il était nécessaire de s'expliquer d'abord sur ce qu'on entendait par « la plus belle des batailles ». Les miennes, continuait-il, ne pouvaient être jugées isolément. Elles n'avaient point unité de lieu, d'action, d'intention. Elles n'étaient jamais qu'une partie de très vastes combinaisons. Elles ne devaient donc être jugées que par le résultat. Celle de Marengo, si longtemps indécise, avait donné toute l'Italie. Celle d'Ulm avait vu disparaître toute une armée. Celle d'Iéna avait livré toute la monarchie prussienne. Celle de Friedland avait ouvert l'empire russe. Celle d'Eckmühl avait décidé de toute une guerre, etc. Celle de la Moscova, disait-il, était une de celles où l'on avait déployé le plus de mérite et obtenu le moins de résultats. Celle de Waterloo, où tout avait manqué quand tout avait réussi, eût sauvé la France et réassis l'Europe. Madame de Montholon, ayant demandé quelles étaient les meilleures troupes, « Celles qui gagnent les batailles, madame, a répondu l'empereur. Et puis, a-t-il ajouté, elles sont capricieuses et journalières comme vous, mesdames. Les meilleures troupes ont été les Carthaginois sous Hannibal, les Romains sous les Scipions, les Macédoniens sous Alexandre, les Prussiens sous Frédéric. Toutefois, il croyait bien, disait-il, pouvoir affirmer que les Français étaient ceux qu'il était le plus facile de rendre et de maintenir les meilleurs. Avec ma garde complète de 40 à 50 000 hommes, je me serais fait fort de traverser toute l'Europe. On pourra peut-être reproduire quelque chose qui vaille mon armée d'Italie et celle d'Austerlitz, mais, à coup sûr, jamais rien qui les surpasse. » L'empereur, qui s'était arrêté longtemps sur ce sujet qui lui était cher, revenant tout à coup, a demandé quelle heure il était. « 11 heures, a-t-on dit. Eh bien, a-t-il repris en se levant, nous avons le mérite d'avoir gagné notre soirée sans le secours de la tragédie ni de la comédie. » Jeudi 29, Mathilde et Madame Cottin, etc., pas un Français que Napoléon n'eût remué, De C, Napoléon Marengo, Sidney Smith, cause involontaire du retour du général Bonaparte en France, historique de ce voyage, exemple bien bizarre de la fortune. Sur les 2 heures, l'empereur m'a fait appeler dans sa chambre et m'a donné quelques ordres particuliers. À 4 heures, j'ai été le retrouver sous la tente. Il était entouré de tous, assis et se balançant sur une chaise, riant, causant, se battant les flancs pour être gai, et répétant néanmoins souvent qu'il se sentait mou, lâche, ennuyé. Il s'est levé et a fait un tour de calèche. Après dîner, l'on parlait de romans. On citait Madame Cottin et sa Mathilde, dont le théâtre est en Syrie. L'empereur demandait s'il avait vu Madame Cottin, si elle l'aimait, si son ouvrage lui était favorable. Et comme on hésitait, « D'ailleurs, a-t-il dit, tout le monde m'a aimé et m'a haï. Chacun m'a pris, laissé et repris. Je crois qu'on peut affirmer qu'il n'est point un Français que je n'ai remué. Tous m'ont aimé, depuis Collot d'Herbois, s'il avait vécu, jusqu'au prince de Condé. » Seulement cela n'a pas été en même temps, mais par intervalles et à des époques différentes. J'étais le soleil qui parcourt l'écliptique en traversant l'équateur. À mesure que j'arrivais dans le climat de chacun, toutes les espérances s'ouvraient, on me bénissait, on m'adorait, mais dès que j'en sortais, quand on ne me comprenait plus, venaient alors les sentiments contraires, etc. Et plus tard, la conversation s'est arrêtée sur l'Égypte. L'empereur a répété beaucoup de choses sur Kléber et De C. Il n'hésitait pas à prononcer que Kléber était le meilleur officier de son armée, après De C, et il a raconté plusieurs circonstances de sa vie et de son caractère. Jusque-là, disait Napoléon, il avait passé généralement pour insubordonné, mais il n'en laissa jamais rien soupçonner vis-à-vis du jeune général en chef, ce qui étonnait fort, observait l'empereur, les officiers de l'état-major, accoutumés à une toute autre allure dans Kléber. L'empereur revenait à le blâmer extrêmement de la conduite qu'il avait tenue dès qu'il s'était trouvé généralissime en Égypte. Il s'était ennuyé, disait-il, de la perspective d'une telle situation et n'avait songé qu'à revenir en Europe, ce qui l'avait porté à écrire au directoire une lettre des plus ridicules, pleine d'assertions fausses et absurdes, et qui, par la plus bizarre des circonstances et bien assurément contre toute prévoyance de la part de Kléber, vint tomber précisément entre les mains de celui contre lequel elle était principalement dirigée. Napoléon venait de succéder au directoire. De C arriva près du premier consul au moment de Marengo. Napoléon lui demandait comment il avait pu signer la capitulation de l'Égypte, car l'armée, remarquait-il, était suffisante pour la garder, nous ne devions plus la perdre. Cela est vrai, répondit De Sey, et l'armée était certainement assez nombreuse pour cela. Mais le général en chef ne voulait plus y demeurer. Or, le général en chef, à cette distance, n'est pas un seul homme dans l'armée. Il en est la moitié, les trois quarts, les cinq sixièmes. Il ne me restait donc qu'à le déposséder, mais il était douteux que j'eusse réussi, et puis c'eût été un crime, car en pareil cas, le lot d'un soldat est d'obéir. Je l'ai fait. De Sey, à Marengo, aussitôt après son arrivée, reçut le commandement de la réserve. Sur la fin de la bataille, au milieu du plus grand désordre apparent, Napoléon arrivant près de lui, « Eh bien, lui dit De Sey, nos affaires vont bien mal, la bataille est perdue. Je ne puis qu'assurer la retraite, n'est-ce pas ?»« Bien au contraire, lui dit le premier consul. Pour moi, la bataille n'a jamais été douteuse. Tout ce que vous voyez là, en désordre, à droite et à gauche, marche pour se former sur votre queue. La bataille est gagnée. Poussez votre colonne en avant, vous n'avez qu'à recueillir le fruit de la victoire. » Plus tard, l'empereur a beaucoup parlé de Sir Sidney Smith. Il venait, disait-il, de lire dans le Moniteur les pièces de la Convention d'El Arisque et observait que Sidney Smith y avait mis beaucoup d'esprit et s'y était montré honnête homme. Il avait embêté Kléber, disait-il, par tous les contes qu'il était venu à bout de lui faire croire. Mais quand le refus de ratification de la part de son gouvernement arriva, Sidney Smith s'en montra fort mécontent et employa beaucoup de loyauté vis-à-vis de l'armée française. « Après tout, disait l'empereur, Sidney Smith n'est point un méchant homme. J'en prends aujourd'hui une meilleure opinion, surtout d'après ce que je vois chaque jour de ses confrères. » Ce fut Sir Sidney qui, en communiquant les journaux d'Europe, amena le départ de Napoléon et par conséquent le dénouement de Brumaire. Les Français, revenant de Saint-Jean-d'Acre, ignoraient tout à fait ce qui s'était passé en Égypte depuis plusieurs mois. Napoléon, avide d'apprendre quelques nouvelles, envoya un parlementaire à bord de l'amiral turc sous prétexte de traiter les prisonniers qu'il venait de faire à Aboukir, se doutant bien que ce parlementaire serait arrêté par Sir Sidney Smith, qui mettait le plus grand soin à empêcher toute relation directe entre les Français et les Turcs. En effet, le parlementaire français reçut de Sir Sidney Smith l'intimation de monter à son bord, et tout en le comblant de bons traitements, Sir Sidney Smith, acquérant la certitude que les désastres d'Italie étaient inconnus à Napoléon, ce fut un malin plaisir de lui envoyer une suite de journaux. Napoléon passa la nuit dans sa tente à dévorer ses papiers et résolut à l'instant même de passer en Europe pour remédier, s'il en était temps, aux maux de la patrie et la sauver. L'amiral Gantôme, qui avait ramené Napoléon d'Égypte sur la frégate Le Muiron, m'a souvent raconté son voyage. Cet officier était toujours demeuré au quartier général depuis la destruction de la flotte à Aboukir. Il me disait que peu de temps après le retour de Syrie et immédiatement après une communication avec l'escadre anglaise, le général en chef le fit venir et lui donna l'ordre d'aller en toute hâte à Alexandrie, d'y armer, avec mystère et avec toute la célérité possible, une des frégates vénitiennes qui s'y trouvait et de le prévenir aussitôt qu'elle serait prête. Ce moment arrivé, le général en chef, qui faisait une tournée d'inspection, se rendit sur une plage non fréquentée avec un escadron de ses guides. Des canots s'y trouvèrent pour les recevoir et les conduisirent à la frégate et qu'ils gagnèrent en évitant de passer par Alexandrie. On appareilla le soir même, avant d'avoir disparu au jour devant les croiseurs anglais et leur flotte mouillée à Aboukir. Malheureusement, le calme survint, qu'on était encore en vue des côtes et que du haut des mâts, on pouvait distinguer les vaisseaux anglais au mouillage. Dans cette situation, l'inquiétude fut grande. On proposa même de rentrer à Alexandrie, mais Napoléon s'y opposa, les dés étaient jetés, et bientôt on fut assez heureux pour se trouver tout à fait au large. La traversée fut fort longue et très défavorable. On s'effraya souvent des Anglais. Personne ne connaissait les intentions du général, chacun faisait sa conjecture, on était fort agité. Napoléon seul paraissait calme et tranquille, renfermé la plus grande partie du jour dans sa chambre, où il lisait, dit Gantôme, tantôt la Bible, tantôt l'Alcoran. s'il paraissait sur le pont, c'était de l'air le plus gai, le plus libre, et causant des choses les plus indifférentes. Le général Menou était le dernier auquel Napoléon eût parlé sur le rivage, et l'on a su plus tard qu'il lui avait dit « Mon cher, tenez-vous bien, vous autres ici, si j'ai le bonheur de mettre le pied en France, le règne du bavardage est fini. » Le sentiment de Napoléon sur nos désastres, après la lecture des papiers fournis par Sidney Smith, était tel qu'il ne doutait pas que l'ennemi n'eût franchi les Alpes et n'occupât déjà plusieurs de nos départements méridionaux. Aussi, quand on approcha d'Europe, fit-il gouverner sur Collioure et le port Vendre dans le fond du golfe du Lion. Un coup de vent le repoussa et le fit rabattre sur la Corse. Alors on entra à Ajaccio, où l'on se procura des nouvelles. Gantôme me disait avoir vu là la maison de famille, le salon patrimonial de Napoléon. La célébrité du compatriote, ajoutait-il, avait mis aussitôt toute l'île en mouvement. Il pleuvait une nuée de cousins. La rue en était pleine, encombrée. En remettant à la voile, on gouverna cette fois vers Marseille et Toulon. Mais au moment d'aborder, on se crut encore perdu. Sur le flanc gauche du vaisseau, lors du coucher du soleil et précisément dans ses rayons, on compta jusqu'à 30 voiles qui arrivaient vent arrière. Gantôme, dans son effroi, proposa au général d'armer le grand canot de la frégate de ses meilleurs matelots et d'essayer, à la faveur de la nuit, de gagner la terre de sa personne. Napoléon s'y refusa, observant qu'il serait toujours temps de prendre ce parti et commanda de continuer la route comme si de rien n'était. Cependant, la nuit s'était faite, et plus tard, l'on entendit les coups de canon, signaux de l'ennemi, mais, au loin et de l'arrière, preuve évidente qu'on n'en avait pas été aperçu. Au jour, on mouilla dans Fréjus, on sait le reste. L'empereur a fini la soirée en citant trois exemples bien bizarres de fortune arrivés vers ces mêmes parages et à peu près dans les mêmes temps. Un caporal, déserteur d'un des régiments de l'armée d'Égypte, qui s'était mis dans les Mamelouks, y était devenu bey. Il a écrit depuis à son ancien général. Une grosse vivandière de l'armée est devenue la favorite du pacha de Jérusalem. Elle ne savait point écrire, mais elle a fait faire des compliments et assuré qu'elle n'oublierait jamais sa nation et protégerait toujours les Français et les chrétiens. C'était, disait l'empereur, la Zaïre du jour. Enfin, une jeune paysanne du Cap Corse, saisie dans un bateau pêcheur par des barbaresques, a été gouvernée le souverain du Maroc. L'empereur, après quelques communications de relations extérieures, avait, disait-il, fait venir de Corse à Paris le frère de cette paysanne, l'avait tant soit peu décrassée, nippée convenablement, et l'avait envoyée à sa sœur, mais il n'en avait jamais plus entendu parler. L'empereur s'est retiré tard, il avait causé plus de 3 heures. Vendredi 30. Sur les 4 heures, j'ai été joindre l'empereur. Il venait de travailler sous sa tente. Le gouverneur avait répondu aux différentes lettres dictées par l'empereur à M. de Montholon. À la première, contenant la protestation contre le traité du 2 août et une foule de griefs, il n'a trouvé d'autre réponse que de demander quelles lettres il nous avait retenues. Nous ne pouvions le lui dire précisément puisque nous ne les avions jamais vues. C'était nous qui le lui demandions, lui seul le savait. Quant à la seconde lettre qui portait que l'empereur ne recevrait plus jamais personne que par les passes du grand maréchal, comme au temps de l'amiral Cockburn, le gouverneur a répondu qu'il était fâché que le général Bonaparte se trouvât importuné de visites indiscrètes à Longwood et qu'il allait s'empresser d'y remédier. Ironie révoltante et sans nom dans la position où se trouve l'empereur et le sens dans lequel lui avait écrit M. de Montholon. Après le dîner, l'empereur a gagné le salon et nous a fait asseoir autour de la même table en séance académique, disait-il. Il s'est mis à dicter quelques objets qu'il a rejetés après leur lecture et la conversation alors a repris et s'est fort prolongée, partie sérieuse, partie gaie. Il était près d'une heure quand l'empereur s'est retiré. Depuis quelque temps, nous veillons plus que de coutume. C'est bon signe. L'empereur est mieux portant, plus gai, plus causant. Samedi 31. Doutes historiques, le duc d'Orléans, régent, Madame de Maintenon, son mariage avec Louis XIV. L'empereur s'est levé de très bonne heure, il a fait le tour du parc tout seul. À son retour, ne voulant, disait-il, faire réveiller personne, il avait saisi mon fils, qu'il avait trouvé debout, et lui a dicté 2 heures sous la tente. Nous avons tous déjeuné avec lui. Puis est venue la promenade en calèche. Durant la course, l'empereur parlait de doutes historiques. Après plusieurs citations curieuses, il a conclu par une circonstance personnelle au régent. Si Louis XV était mort enfant, disait-il, et rien n'était si possible, qui eût douté que le duc d'Orléans n'eût été l'empoisonneur de toute la maison royale? Qui eût osé le défendre? Il a fallu qu'un enfant très délicat survécût pour qu'on pût, sur ce point, rendre justice à ce prince. L'empereur, alors, revenait sur le caractère du duc d'Orléans et surtout sur ses torts dans l'affaire des princes légitimés. Il s'y était dégradé, répétait-il. Ce n'est pas que la cause de ceux-ci ne fût mauvaise. Louis XIV usurpait un droit en les appelant la succession. La nation, à l'extinction de la maison royale, rentre indubitablement dans ses droits, c'est à elle de choisir. L'acte de Louis XIV n'était sans doute qu'une erreur de sa grande élévation. Il pensait que tout ce qui sortait de lui devait être grand, et il semblait se douter pourtant que tout le monde ne penserait pas comme lui, car il avait pris ses précautions pour affermir son ouvrage, en donnant ses filles naturelles au prince de son sang, en faisant épouser à ses bâtards des princesses de sa maison. Quant à la régence, il était bien sûr qu'elle revenait de droit au duc d'Orléans. Le testament de Louis XIV n'était qu'une niaiserie, il violait nos lois fondamentales. Nous étions une monarchie et il nous donnait une république pour régence, etc. De là, passant à Madame de Maintenon, l'empereur lui trouvait une des carrières les plus extraordinaires. C'était la Bianca Capello du temps, disait-il, moins romancière mais pas aussi amusante. En poursuivant ses doutes historiques, il ne revenait pas du mystère de son mariage. Il était parfois tenté de le regarder comme un problème, malgré tout ce qu'en avaient dit les mémoires du temps. Le fait est, observait-il, qu'il n'existe et n'a jamais existé aucune preuve officielle et authentique. Or, quel pouvait être le motif de Louis XIV de tenir cette mesure si strictement secrète pour son temps et pour l'avenir ? Ou, comme la famille de Noailles, parente de Madame de Maintenon, n'a-t-elle jamais rien laissé percer à cet égard, surtout encore Madame de Maintenon ayant survécu à Louis XIV, etc. L'empereur, se sentant fatigué, s'est retiré aujourd'hui de bonne heure. Il paraissait souffrant, triste, abattu. Fin du chapitre 8, août 1816.